le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, diffusé en direct, mercredi 15 février 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association pour cette année. La cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la résistance, bonsoir.
Bonsoir.
Bah, vous dites pas résistant, vous remplacez pas.
Ah bah
pas,
attendez, hein. Oui. Alors résistant, bonsoir. Voilà.
Voilà. Non, résistant.
Ah résistant, oh, bonsoir. Oh là là, c'est toute une école.
Ah bah non, mais c'est il y a une.
Et bah, je remplace au pied levé, hein.
Oui, bah, levé pas trop.
Je suis la alors... doublure d'une doublure. Vous vous rendez compte?
Ah oui, c'est vrai. Hein. Ouais. Enfin, si si, vous auriez été assez moyen quand même.
Ah moi, ça m'aurait pas déplu.
On lui fait une bise à Victoria, je sais pas, elle a pris des vacances.
Elle est pas souffrante au moins.
Non, elle est en pleine forme, mais elle a décidé de prendre des vacances.
Un contrat à Europe numéro 1, mais vous voulez...
Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Goffman, lui, il prend des vacances aussi, mais des vacances laborieuses. Il viendra un peu plus tard. Voilà.
Donc il y a quand même des fidèles.
On est tous les deux, le marquis et moi-même. Et nous allons recevoir... Monseigneur Fernando Rifan, supérieur de l'administration apostolique au diocèse de Campos, Brésil. Je crois que c'est la première fois que je reçois un évêque en bon uniforme. Il me semble.
C'est très important au Brésil. Hein.
Ah bah, considérable. Et qui sera accompagné de l'abbé Guillaume de Tanouarn, que j'ai convaincu de venir pour lui poser des questions, parce que... Moi, je suis pas très très brillant pour des évêques. Pour dire des bêtises, ça va, mais pour des choses sérieuses, il aurait fallu que je fasse revenir Daniel Amiche, qui a l'onction épiscopale. Et ensuite, on recevra Jean-Claude Hermans, qui est écrivain, historien des religions, et qui a écrit un livre intitulé « Les religions du livre ». Voilà, et je lui demanderai si vraiment les juifs, les musulmans, les chrétiens ont le même livre. C'est une question vraiment intéressante.
C'est l'annuaire du téléphone.
C'est amusant, ça. Et en deuxième partie, ça sera une partie enregistrée, donc vous ne pourrez pas poser de questions. Et j'en suis bien navré, mais nous ne pouvions pas faire autrement parce que mon interlocuteur vit au Paraguay, ce qui ne facilite pas les visites. Et c'est Dominique Rulin. Alors les vieux de la vieille sauront de qui je parle. Et les jeunes le découvriront, parce que c'est quand même un personnage pas banal, qui vient de publier un livre intitulé « La Grande Piste », un livre dans lequel il raconte les 30 premières années de sa vie, à peu près. Et c'est un très très grand livre, un livre très musculeux.
C'est pas une surprise.
Hein, mais il faut dire que Rulin, c'est quand même pas n'importe qui. C'est le frère du colonel Hérulin.
Qui a sauté sur Colville.
Le fils du colonel Hérulin, qui était un des maréchaux de l'Âtre. Le petit-fils du colonel. Ils sont colonels, comme dans d'autres familles, on est pas tout à fait de la même manière. Voilà. C'est le programme de ce soir. Et je voudrais quand même. Évoquer l'actualité et notamment saluer une fois de plus la maestria avec laquelle le président de la République dirige ce pays. Je dois dire que entre le président de la République et la ministresse de la Défense, on est drôlement bien lotis.
Oui, on sent.
On a, On a un bateau qui se balade, personne n'en veut, et donc il va revenir. Moi, ce que je voudrais quand même qu'on nous dise, au passage, une fois comme ça, c'est ce que ça va coûter, cette petite plaisanterie. À mon avis, ça va coûter bonbon. Il se fout vraiment du monde. Il se fout vraiment du monde. Hein. C'est incroyable. Ils n'ont même pas été capables de laisser partir. D'abord, première chose, il faut quand même faire une remarque. On a deux porte-avions en France, le Clémenceau et le De Gaulle. Dans tous les pays du monde, on donne les noms de grands marins aux grands bateaux. Il n'y a qu'en France qu'on donne des noms de grands requins.
Avec De Gaulle, c'est normal, il est quand même l'auteur d'un grand naufrage.
Hein. Puis en plus, De Gaulle, c'est idéal pour aller sur un bateau. Oui. Mais Clémenceau, pareil. Enfin, vraiment, c'est tout ça. On touche. À chaque fois, on se dit, c'est pas possible cette fois-ci, on n'ira pas plus loin. Il peut pas faire mieux.
Hein? Si, il peut.
Mais si, il peut. Attendez, vous rigolez, bien sûr qu'il peut. Donc voilà, alors le bateau est parti, et en route, ils se sont aperçus que... finalement, ils n'étaient pas sûrs que les Indiens... D'abord, je ne sais pas pourquoi on envoie ce bateau aux Indiens. Dans le temps, on leur envoyait de la verroterie. Maintenant, on leur envoie de la ferraille.
Oui, mais c'est les pauvres qui vont désamianter.
Alors, moi qui ne suis pas quand même très social...
Ah non, très social, vous trouvez ça bien.
Non, j'ai vu hier les images des gars en torse nu, dans la boue, jusqu'aux oreilles, en train de casser un vieux bateau. Et tout. C'est... Alors, les mêmes qui nous font tout un cinoche sur l'esclavage, l'abolition, on va célébrer le 10 mai maintenant, la fin de l'esclavage. Mais Chirac, qu'est-ce que c'est d'autre que de l'esclavage? Le fait d'envoyer un bateau, qui est un gigantesque poison ambulant, à des Indiens, pour pas qu'ils soient déventibulés en France, parce qu'on risquerait d'avoir des ouvriers français amiantés. Qu'est-ce que c'est que cette conception du sous-homme? Parce que ça veut dire, après tous les Indiens, c'est des sous-hommes, on n'en a rien à foutre qui crèvent, quoi. C'est ça.
Bien sûr. C'est un peu comme les teinturiers à Marrakech.
Oui, exactement. Ouais, c'est
à Fès. Oui, il y en a à Fès aussi.
C'est l'histoire de Fès.
Oui, c'est ça.
C'est très beau, on empêche vu d'avion.
Ah oui, vu d'avion. Parce qu'on en sent pas.
Ça sent les odeurs, oui.
Alors, en tout cas, voilà, ce monsieur, il s'est aperçu.
Il va en Inde, là, dans les jours à venir. Il pourrait y aller avec le Clémenceau.
Est-ce qu'il en y va avec sa dinde?
À propos, faut lire le bouquin de Paul Le Perse, la jeune Le Perse.
Ah oui?
Oui, Madame. Ça, oui. Il raconte comment il n'a pas pu faire un reportage sur elle. C'est assez extraordinaire. Alors, on prend un coup l'icône, là.
Ce qui est formidable aussi, c'est que la presse, mais les journaux sont vraiment les journalistes sont des larbins, quoi. C'est un métier de larbin, j'ai toujours dit.
Oh, hein? Pas au Libre Journal.
On n'est pas journaliste.
Ah non, c'est vrai.
J'ai pas de carte depuis longtemps. Fini. Il y a deux catégories de gens qui ont des cartes, à part les flics, c'est les putes et les journalistes. C'est-à-dire, en fait, il y a une catégorie. Non, j'en ai plus depuis longtemps, moi, je l'ai déchiré.
Une carte de flic,
mais... Alors, en tout cas, on apprend que Jacques Chirac... Alors, ce truc, qui est un bide extraordinaire, qui nous ridiculise vraiment à jamais, quoi. Enfin, si c'était pas déjà fait. Eh bien, Jacques Chirac, ils arrivent à le positiver. Jacques Chirac a mis un terme au feuilleton diplomatico-judiciaire du Clémenceau. C'est-à-dire, ça fait exactement penser au type qui veut absolument rentrer dans une boîte de nuit, et on lui botte le cul. Il se retrouve à plat ventre sur le trottoir, et il se retourne en disant, j'ai mis un terme à notre débat sur la possibilité d'entrer dans la boîte de nuit. C'est ça. Hein, vous n'en voulez pas? Eh bien, puisque c'est comme ça, vous l'aurez pas. Voilà. Alors, en ordonnant définitivement le rapatriement de l'ancien porte-avions dans l'attente d'une solution définitive pour son démantèlement.
Mais qu'est-ce qu'on va en foutre aussi?
Je pense qu'il va couler. Mmh. Alors, j'ai un ami qui m'a téléphoné en me disant qu'il avait une idée. C'est un ami qui est médecin. Il m'a dit, j'ai une proposition. On prend tous les poulets.
Pour la grippe aviaire.
Pour la grippe aviaire, on les fout
sur
le Clémenceau avec l'amiante et puis on les laisse. Donc où la grippe aviaire tue l'amiante, ou l'amiante tue la grippe aviaire.
Oui, mais il faut savoir dans quelle mer on fait ça aussi.
Bah loin.
Ah ouais, bah voilà,
loin. L'océan Indien.
Ah oui, dans l'océan Indien. Voilà. Pas dans le lac de Genève.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre encore Ah oui, à Strasbourg. Je voudrais bien connaître le préfet de Strasbourg, moi. Parce que le préfet de Strasbourg, il passe son temps à poursuivre
la
soupe au lard. Ouais. Mais alors, les manifestations, ça, ça le gêne pas du tout. Alors, le week-end dernier, il y a eu une manifestation, je sais pas combien, de 7000 islamo-positifs qui sont allés défiler dans les rues. pour réclamer je sais pas quoi, je sais pas. Et on peut plus destiner Mohamed.
Mais attendez, mais je croyais qu'on pouvait même pas non plus destiner Allah. Mais c'est encore pire.
Allah, on peut pas.
On peut pas
destiner Allah.
Oh là là.
Mais nous non plus. Comment vous destinez Dieu?
Bah, un triangle avec un œil.
Ah oui, d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mon vénérable frère. Non, bon, donc ça, ils tolèrent très bien. Hier, il y avait, aujourd'hui, je sais pas, il y avait 40 000 manifestants qui ont traversé Strasbourg dans le calme. Ça ne gêne pas du tout. Mais alors, la soupe au lard, ça va très très mal. Donc, le lard est interdit en Alsace.
Ben, c'est dedans, ça va pas faciliter la gastronomie.
Mais il y a quand même une chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est que normalement, il doit... Écoutez, on sait bien qu'en France, vous dites, comme j'ai dit tout à l'heure, les journalistes sont des putes, vous avez tous les syndicats de journalistes aux fesses.
Oui, dites, en l'occurrence, c'est normal.
Aux fesses. Les coiffeurs sont tous pédés, vous avez tous les coiffeurs aux fesses. Vous dites, les maquilleuses ou les esthéticiennes sont toutes des bonnes, eh ben, vous avez les syndicats d'esthéticiennes. Mais quand vous dites, le cochon est interdit, il n'y a pas un éleveur de cochons, il n'y en a pas un
non, qui rouspète,
qui rouspète et qui se manifeste.
Ils sont peut-être tous musulmans maintenant, je sais pas. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il y ait un syndicat d'exploitants.
Au moins un syndicat qui dit arrêtez de nous emmerder. On a déjà du mal avec la filière cochon. Vous nous avez failli nous ruiner avec la vache folle. Vous êtes en train de nous foutre en l'air avec la grippe aviaire. Et les cochons interdits. Eh ben non, ils s'en foutent visiblement. Mais qui crève. Voilà ce que je voulais dire aussi. Quoi d'autre? Le blocus anti-CPE en Bretagne. C'est ce que c'est le CPE?
Je sais pas, le contrat d'embauche provisoire.
Le contrat provisoire d'embauche?
Oui.
Ouais, ça.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous embauchez quelqu'un, vous pouvez le foutre à la porte.
Oui, mais ça a toujours
donc c'est normal.
Mais ça a toujours été comme ça.
Alors pourquoi ils nous font pleurer? Ça a toujours été comme ça. Voilà.
Et moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais qu'une trouille, c'est de me faire foutre à la porte.
Ah, moi aussi.
Oui, mais maintenant, les patrons, ils ont qu'une trouille, c'est de se faire engueuler par les gens qui t'embauchent.
Alors, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a épinglé la France dans un rapport qui sera rendu public demain mercredi. Alvaro Gil Robles dénonce les conditions d'incarcération en France. Ah, c'est vrai, c'est incroyable, ça.
Hein? Oui, attendez, j'étais sûr.
Non, vous trouvez pas que c'est scandaleux que... On oblige des détenus qui sont des criminels ou des délinquants à vivre pratiquement dans les mêmes conditions que les vieillards dans les hospices?
Non, c'est pas normal.
C'est absolument scandaleux.
Parce qu'eux, ils ont une chance d'être réinsérés, les vieillards.
Ouais, les vieillards, on va les réinsérer autrement. Ouais.
Il y a une question d'auditeur, là, c'est pour ça que j'étais un peu distrait, qui est intéressante. Il demande, mais je pense qu'on n'a pas la réponse. Savez-vous si M. Bouteflika, lorsqu'il fut opéré gratuitement au Val-de-Grâce, a été transfusé avec du sang de chrétien?
Ah,
bonne question, hein.
J'espère qu'on lui fait des injections de sang de cochon.
Oui, j'y pensé.
Ah oui. Au nom de la Légion.
Au nom de la Légion.
Hausse de la violence contre les personnes. Alors là, je comprends pas non plus, parce que pendant toute l'année 2005, on nous a répété que la criminalité était en baisse. Combien de fois on nous l'a dit? Au moins 100 ou 200 fois dans l'année.
Oui.
Bon, et là, on apprend qu'elle est en hausse. Est-ce qu'on nous mentirait?
On nous a dit aussi qu'il y avait un peu moins de dégâts ce matin. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé. Je sors de chez moi. La pizzeria qui est à 100 mètres n'avait plus de vitrine. Je vais chez ma masseuse qui est un peu plus loin. Et ma banque qui fait l'angle, enfin une banque, la Société Générale, plus de vitrine non plus.
C'est bien fait pour eux.
Voilà.
Société Générale, c'est bien fait. Je suis très content.
Bon.
Alors, j'étais client chez eux, ils m'ont viré. Alors oui, les vitrines, ça
mais je m'en fous, mon frère à Montargis, il n'entend pas, il ne peut pas calculer. Alors, c'est...
Bon. Alors, Libération reproche à Sarkozy de s'intéresser à la couleur des délinquants.
Ah. Pourquoi?
Je sais pas, moi je lis les titres.
Ils n'ont pas le droit d'être rouges, verts.
Sarkozy s'intéresse à la couleur des délinquants.
On ne peut pas être délinquant et vert, on ne peut pas être délinquant et rouge.
Si, sans doute, sûrement, oui.
Bon,
les Apaches.
Bah oui, il y a bien des délinquants dans les verts.
Non,
on va bien découvrir des choses un jour, la mairie de Paris. Il y a bien des délinquants dans les verts.
Oh, c'est bien possible aussi. Voilà. Ouais.
Chez les communistes aussi.
Alors, Georges Frêche, la grande gueule, vous l'avez vu. J'aime bien
le message de
France. Ah oui, à propos de... Ah oui, France grande et généreuse de Clémenceau est rapatrié, les volailles sont confinées, les harkis sont cocus et des sous-hommes, tiens voilà. Vanesh est condamné, Yabon Banania c'est fini, la traite des Noirs est célébrée, la traite des Noirs est célébrée, la traite des Blanches est proscrite. Ouais. À propos de traite des Blanches, est-ce que vous avez vu que, dans la série, le sport est un exercice excellent pour la santé mentale, morale et physique? Le championnat du monde, la coupe du monde, je sais pas quoi, de football, qui a lieu à Berlin cette année. Ils vont construire, donc à proximité du plus grand stade de Berlin, un bordel de 140 pioles.
J'ai entendu parler de ça, oui.
Hein? Oui. Alors, parce qu'ils disent que les gars qui vont au foot, ils aiment bien en sortant...
Dieu est-ce possible.
Non mais enfin, attendez, on rêve ou quoi? On nous bassine, ils nous pompent l'air à longueur de journée avec des matchs de foot sur toutes les chaînes de télévision en nous expliquant que c'est sain, que c'est bon pour la santé, que moralement on est mieux quand on fait du sport et tout. Et tout ça, c'est pour finir chez les putes.
Et pendant ce temps-là, ils brûleront pas les voitures.
Bien sûr, ça les arrêtera pas. Non mais franchement, quel monde de cinglés alors.
Ah bah alors, ça les putes n'ont pas le droit d'aimer le football, ça c'est nouveau.
Tiens, à propos, Chikungunya faire parler d'elle. C'est vous qui nous aviez dit que Chikungunya, c'était, c'était le nom d'une...
D'une sous-maîtresse.
Une sous-maîtresse de chez...
Oui, oui.
Incroyable. Oui. Vous en savez des choses, là, j'en reviens pas. Et alors donc, 100 000 malades et à La Réunion. Alors, j'ai entendu Laurent Gérard. Vous avez entendu Laurent Gérard?
Non, j'ai pas entendu là, son sujet.
En imitant Johnny Hallyday, il a dit que à cause de l'épidémie de chikungunya, je veux pas aller à la réunion des copropriétaires. Il a peur. Voilà, il le dit bien mieux que moi, c'était beaucoup plus drôle, mais c'est une bonne idée. Près de 304 000 intentions d'embauche en CNE en 5 mois. CNE, c'est contrat de nouvelles embauches. C'est pas comme les CPE, alors? Je sais pas. En tout cas, 304 000 intentions d'embauche. Et combien d'intentions de licenciement?
Oui, voilà, c'est la clé. Oui.
Un groupe terroriste kurde frappe au cœur d'Istanbul. Ça, c'est dans la série des émissions. On s'en fout.
Oui, complètement. Mais, hein, et puis, bienvenue dans l'Europe.
Oui. Et puis, dialogue social, où va-t-on, nous demandent les échos.
Dans le mur.
Dans le mur. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut dire, parce que cette actualité est désolante. Le seul bon moment que j'ai passé, c'était le week-end dernier, quand on a vu défiler 7000 musulmans de la nation à la Bastille, ou de la Bastille à la nation, je ne sais pas dans quel sens ils l'ont pris, et qui criaient des tas de slogans sympathiques et amicaux. Voilà. Alors quand même, il y a un truc incroyable qui s'est passé. Il y a des gars qui sont vraiment gonflés. Hein. Il y a un petit groupe de jeunes farceurs qui s'appelle la Brigade de l'Argent des Français, la BAF.
La BAF.
Et alors, il y a deux gars de jeunes types de cette Brigade de l'Argent des Français qui se sont habillés en combinaison blanche, avec l'un avait une casquette et l'autre avait un casque en plastique de chantier, et ils sont entrés directement dans la manifestation. Il y en avait un qui avait un drapeau danois où il avait marqué solidarité avec le Danemark, et l'autre il avait un coussin sur lequel il avait posé une main de cire coupée, ensanglanté, qui tenait un crayon, qui était en train de faire une caricature.
Oh, mais c'est formidable, ça. Alors, rien arrivé, non?
Ah ben ça, ils ont failli être lynchés. C'était limite. Les flics sont arrivés, ils les ont chargés en vitesse dans le panier de salade, ils les ont emportés à distance. Mais ce qui était très drôle, c'est de voir, là, on mesure les temps de réaction des différentes peuplades. Et là, c'était extrêmement intéressant parce que ça a duré très très longtemps avant qu'ils comprennent les autres.
Bah oui, il faut que ça chemine.
Mais c'est une provocation. Non, pas du tout, non.
Il y a des replis dans le turban.
Alors, il y en a un qui a fini par comprendre, effectivement, que ça ressemblait fort à une façon de se foutre de leur gueule.
Ça me rappelle pas, c'est ce copain qui, au moment des... Quand il y avait l'affaire Barbie, avec le procès à Lyon, etc., à chaque fois qu'il y avait une manifestation de Jeanne d'Arc, le type vendait des poupées Barbie à côté. Et alors, tout le monde parlait de Barbie pendant la manifestation. Mais là, on comprenait plus vite, quand même. Hein, on était dans le même genre.
Et alors les mêmes ont fait, c'est les mêmes gars, les mêmes farceurs qui ont fait un autre truc quand il y a eu la célébration du 10e anniversaire de la mort de Mitterrand, où sur la façade du siège du Parti Socialiste, les éléphants avaient affiché une immense photographie de Tonton, vous vous rappelez?
Oui, oui.
Et il y en a un qui est arrivé en disant il manque quelque chose, il a escaladé la photo, enfin le perron, et il a collé une francisque sur le revers, une grande francisque sur le revers de Tonton. Et alors c'est pareil, ils ont été insultés gravement, et si la police n'était pas intervenue, ils auraient passé encore un mauvais quart d'heure avec le service d'ordre du Parti Socialiste. Qui leur ont volé un sac, d'ailleurs. Il a fallu que les flics exigent qu'on leur rende leur sac.
Ah bon?
Oui, oui.
Qui était plein de Francis.
Non, mais chez les socialistes, c'est normal. C'est une tradition, quand même. Hein, ils ont quelques heures de vol. Voilà. Ah oui, un auditeur dit, est-ce que ça serait un effet de votre bonté de nous rappeler le titre de l'indicatif de votre émission? Oui, ça s'appelle, comment ça s'appelle d'ailleurs?
Les Partisans Blancs.
Les Partisans Blancs, c'est en vente, chez La Mère Agitée.
Voilà, très bien. Tiens, on va
au restaurant La Mère Agitée.
Voilà.
C'est rue Campagne Première, 21, 25?
21 rue Campagne Première.
21 rue Campagne Première.
21 rue Campagne Première.
Très bonne cuisine, très bon restaurant, très bonne hôtesse.
Oui.
Et très bonne musique.
Que j'ai croisé tout à l'heure et qui aimerait bien qu'on aille la voir.
Eh ben, on ira. Si elle est bien sage, on ira la voir.
Voilà.
Voilà, bon, ben, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de l'actualité, parce qu'autrement,
pas
on va dire
un mot
des
sur
choses.
M. Fraîche, non, on n'en parle pas.
Ah ben si, Fraîche.
C'est quand même, c'est
Fraîche
grandiose.
Qui passe pour... Non, mais, vous voyez, ça, c'est quand même un signe. Hein. Fraîche qui passe pour une grande gueule, un type à qui on ne la fait pas et tout, eh bien...
C'est excuse que...
Il était limandesque.
Oui.
Il a présenté des excuses, mon vieux.
Je vais en profiter une seconde pour vous dire, il y a quelqu'un que j'aime pas beaucoup, qui a été exceptionnel hier matin dans l'émission de Stéphane Bern, c'est Philippe Solers, qui a carrément dit au micro, Monsieur Fraîche est un salaud, il n'a pas le droit de dire ce qu'il avait dit, c'est épouvantable, je ne peux pas être solidaire d'un type pareil, mais vraiment, il l'a déglingué. Monsieur Philippe Solers, quand même, j'ai trouvé que c'était plutôt courageux
sur
France Inter hier matin.
Mais moi, j'ai trouvé que c'était courageux, ce que disait Fraîche. Ce qui n'est pas courageux, c'est d'avoir fait machine arrière aussitôt, mais...
Ah, oui,
non, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, entendons-nous. Je ne prouve pas du tout qu'il l'ait dit.
C'est du courage, c'est de l'imbécilité chez lui. Pas du courage.
Non, il n'est pas bête, Fraîche. Non, non, il n'est pas bête. Pourquoi il a fait ça? C'est ça qui est intéressant. Mais il a...
Eh bien, un coup.
Ah.
Parce qu'il ne dit pas d'amour à l'eau fraîche.
Voilà. Montpellier, c'est le maire de Montpellier?
Oui.
Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout dans l'actualité. Ce que je vois d'intéressant, parce que le reste, on ne peut pas en parler. Hein?
Ben si, ça, je sais pas, ça dépend de c'est quoi le reste.
Bah, ce dont tout le monde parle.
Ah bah non, on n'en parle pas, là.
Hein, on ne va pas en parler.
Sinon, on va se retrouver avec des fourchettes plantées dans le dos, et ouais. Ils en ont parlé.
Voilà, et ben écoutez, on va passer. Alors, on donnera la parole en deuxième temps à Monseigneur Riffon, puisqu'il n'est pas encore arrivé. Et je vais me tourner tout de suite vers M. Hermans pour lui parler de ce livre. Alors... Ce livre s'intitule « Les religions du livre ». Et alors, je vous cacherai pas que moi j'ai toujours été absolument convaincu que c'était une ânerie de parler des religions du livre.
Ça s'appelle comme ça, donc il y a pas d'autres termes pour
définir les
livres.
Parce qu'il y a la Bible, la Torah.
Non, c'est la Bible. Bah, la Torah et la Bible, c'est la même chose.
Sauf que la Torah, c'est que le Pentateuque.
C'est les cinq premiers livres.
Voilà. Dans la Bible, oui. Tout le reste, bon. Et quant au Coran, bon, bah, c'est.
Mais...
Ça n'a carrément rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais il se réfère à la Bible. D'ailleurs, on voit ça dans le repos du septième jour, qui a lieu dans les trois religions. Et puis, Mahomet se réfère à Abraham, quand même. Il se dit descendant d'Abraham, puisque Abraham est descendant à la fois des Juifs et des Arabes. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, ça diverge très vite, c'est clair.
Alors, mais quand vous dites les religions du livre, donc vous parlez de la Torah, du Pentateuch.
Je parle des trois religions du livre qu'on appelle, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, ça s'appelle la religion du livre, c'est-à-dire le judaïsme, par ordre chronologique, le christianisme et l'islam, voilà, ce qui sont les trois religions qu'on appelle les religions du livre. Mais c'est vrai qu'elles sont très différentes et malgré cette racine commune au départ, après c'est très très différent.
Hein, comment expliquez-vous
Jésus-Christ a réfuté tout.
Ah pardon, excusez-moi,
je vous en prie.
C'est aparté parce que j'ai posé une question. Je dis, j'aimerais bien connaître le nom du préfet du Bas-Rhin. Et un auditeur téléphone en disant, le préfet du Bas-Rhin s'appelle Jean-Paul Faugère. Et entre parenthèses, il met source de point le Libre Journal.
Ça, c'est formidable.
Oui, pas bien sûr. Il faut lire. Il faudra que je le mette à lire quand même ce journal.
Il faudrait qu'il est pas mal. Vous lisiez quand même. Donc on vous le recommande.
Il paraît qu'il est pas mal du tout. Voilà. Donc c'est Jean-Paul Faugère. Il a un surnom, mais je ne le dirai pas parce que. Hein.
Ah, je pas du tout.
Non, oui, pas. Ça commence par faux aussi, mais ça finit pas par Gère.
Ah oui, 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 oui.
Donc, non, c'est pas Jean-Paul qui est en cause.
Non, j'ai compris, oui, oui.
Voilà. Et donc, revenons à notre...
À nos moutons.
Vous nous dites les religions du livre, mais la première question qu'on a envie de se poser, dans ce cas-là, si vraiment ce sont les trois religions du livre, comment expliquer qu'un livre unique et donner des résultats aussi radicalement différents.
Ah, c'est évident. Ben, bon, il y a l'évolution, parce qu'effectivement, le premier qui a mis tout par terre, c'est Jésus-Christ, hein, parce que Jésus-Christ a supprimé il a supprimé les sacrifices, il a supprimé la lapidation, etc. Voilà. Et puis, 500 ans plus tard, 600 ans plus tard, c'est Mahomet. Mahomet, il a fait plutôt un retour en arrière. Le Mahomet, il est revenu un peu aux sources, parce qu'il a rétabli la lapidation, il a rétabli les lois de Moïse. Parce que quand on lit la Bible, Moïse, il en a lapidé quelques-uns quand même. Mahomet a rétabli les sacrifices, il a rétabli la lapidation. C'est un retour en arrière, en fait. Ouais. Voilà. C'est un retour en arrière. Moi, j'écris ce livre, en fait, parce que je suis pas religieux, je suis pas mystique, dans un but didactique, en réalité, parce que j'entends parler plein de gens, on entend plein de bêtises sur les religions. Je me suis dit, je vais écrire un livre pour expliquer aux gens la différence entre les trois religions. La troisième partie de mon livre, c'est un dictionnaire comparatif, justement, avec 40 mots, et j'explique les différences des trois religions sur un fait précis de la vie courante. Bon, il y a le mot nourriture, donc on comprend ce que c'est que la nourriture chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans. Il y a des mots un peu bizarres, comme besoin naturel, par exemple. Parce que dans la religion chrétienne, les besoins naturels, on n'en parle pas. Mais chez les juifs et chez les musulmans, c'est codifié.
Hein. Ah ben, chez les musulmans, je crois qu'il doit y avoir à peu près 42 ou 54 recommandations. Ce sera dans le prochain numéro du livre journal, je le signale d'ailleurs.
C'est codifié,
54 recommandations pour savoir comment on fait tout ça. Entrer du pied droit, non, entrer du pied gauche, sortir du pied droit.
Surtout, il faut pas être tourné ni vers la Mecque, ni tourner le dos à la Mecque, voilà. Voilà. Et puis, on doit pas se servir de la main droite, voilà. Voilà. Mais voilà. Donc,
c'est des gens qui aiment bien se compliquer.
Donc, c'est codifié. Dans les religions juives et musulmanes, il y a beaucoup plus de codes que dans les religions chrétiennes. La religion chrétienne est beaucoup plus permissive et beaucoup plus libérale, tout compte fait, que les deux autres. Donc, avec mon dictionnaire, on voit bien, justement, la différence dans dans les trois religions, quoi. Hein, il y a le mot sexualité, on voit la sexualité dans les trois religions, on voit exactement, il y a le mot pèlerinage, enfin, il y a 40 mots, et on voit les différences. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce dictionnaire. Et puis, il y a aussi, évidemment, la vie de Mahomet, parce que peu de Français connaissent la vie de Mahomet.
Oui, alors, justement, quand on lit ce que vous racontez de la vie de Mahomet.
Parce que Mahomet, c'est pas Jésus-Christ qui se promène dans le désert, hein. C'est pas ça du tout, hein.
Non, on se pose des questions quand même, parce que ça, c'est la vie officielle.
Oui, c'est sa biographie.
C'est la vie telle qu'elle est racontée par les musulmans eux-mêmes.
Ah oui, tout à fait. C'est pas un secret, oui.
Or, on a vraiment l'impression. Entrez, monsieur l'abbé, je vous en prie. C'est l'abbé de Tannouane qui fait son entrée, accompagné de Mgr Rifan. Asseyez-vous, je vous en prie. Faites le tour, si vous voulez bien. Quand on lit la version officielle estampillée par les musulmans eux-mêmes de la vie de Mahomet, on ne comprend pas très très bien ce qu'ils reprochent aux non-musulmans qui ne font que répéter exactement ce qu'il y a dans dans les textes officiels. C'est ça qui est extraordinaire. On a eu un professeur en France qui a été très lourdement sanctionné, oui, parce qu'il avait dit que Mahomet était un pillard, un assassin.
Ah ben, tout à fait, c'est exactement ça. C'est ça.
Alors, quand on lit la vie de Mahomet, on est obligé de dire qu'effectivement, c'est peut-être pas un pillard, mais enfin, il a pillé.
C'est un pillard, il organisait les razzias, il vivait de razzias.
Apparemment, on n'a pas le droit de dire que c'est un pillard, mais eux-mêmes disent qu'il a pillé, mais c'est
tout à fait. Il vivait de ça.
Ben, je crois que la vie de Mahomet est bien connue. Oui. Personne ne peut aujourd'hui nier que Mahomet est avant tout un chef de guerre.
Un chef de guerre.
Et qu'un chef de guerre arabe à cette époque-là, c'est un mercenaire, au sens précis du terme, actuel du terme, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vend sa force de combat aux plus offrants, à l'époque les Byzantins ou les Sassanides, Perses, et puis toutes les fortunes sont bonnes si on les rend bonnes, et puis voilà.
Enfin, lui, il n'était pas mercenaire, il combattait pour lui, hein, c'est les autres, il combattait pour lui, hein. Il était vassal de personne, Mahomet.
Ce qui m'intéresse, c'est surtout, si vous voulez, Le fait historique, historique ou pas d'ailleurs.
C'est historique quand même. C'est historique.
La tribu de Mahomet, les Koréchites ont été effectivement des mercenaires. Et Mahomet lui-même a sans doute commencé.
Il a été aussi mercenaire de qui?
Mais il a
commencé comme caravanier étant jeune. Et il a épousé sa patronne quand il avait 25 ans. Il est devenu riche par mariage.
Oui, voilà. Mais si vous voulez, il est clair, enfin, le Coran s'adresse de façon extrêmement militaire.
Ah, complètement.
Par exemple, sourate 47 que je viens de relire,
oui.
À des gens qui sont dans l'âme des
guerriers. C'est des guerriers.
Je ne vois pas ce qu'il y a d'incorrect à dire cela. C'est simplement la réalité.
Il y a une très bonne biographie, c'est la biographie de Maxime Rodinson qui est en vente en librairie. Il faut acheter ce livre. Là, c'est la vie de Mahomet. Il y en a beaucoup.
Rodinson est un islamologue absolument. Oui,
elle est très bonne, ça.
Officiel, estampillé.
Ouais. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai arrivé à comprendre, parce que c'est ça la vraie question. C'est-à-dire que, par exemple, quand les musulmans disent, on n'a pas le droit de dessiner Mahomet. On n'a pas le droit de montrer.
On a le droit de rien dessiner. Le dessin et la peinture sont totalement interdites. Ouais. On a le droit de rien dessiner.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en Iran, par exemple, dans toutes les boutiques iraniennes, pas toutes les boutiques, mais dans beaucoup de boutiques, il y a un magnifique portrait de Mahomet, qui est d'ailleurs un très beau jeune homme brun, barbu, avec beaucoup d'allure, un peu genre Jésus-Christ en plus brun, quoi.
C'est blasphématoire pour un musulman. Les images sont interdites.
Mahomet
n'aurait pas accepté. Hein. Il était opposé aux images, c'est clair et net. Il l'a dit 100 fois, il n'acceptait aucune image.
Mais le fait est qu'en Iran...
Chez les Perses, c'est un peu différent, oui.
Chez les Perses, c'est une petite dérive. Effectivement, il y a des...
L'autre question qu'on se pose, que je reviens toujours là-dessus, c'est au nom de quelle logique... ces gens-là prétendent-ils nous interdire de répéter ce qu'eux-mêmes disent? Quel est le mécanisme, d'après vous, le mécanisme intellectuel qui produit cette contradiction?
Le mécanisme, il est simple, c'est que nous sommes des infidèles, donc par essence, nous sommes des ennemis, c'est clair, c'est tout. Ils n'acceptent rien des infidèles, c'est tout.
Ah bah apparemment, ça, il accepte quand même de
trois. Il y a quand même, et moi je voudrais dire ça aux auditeurs, il y a un petit bouquin intéressant qui s'appelle « La fin des illusions jacobines », qui est un petit bouquin... dans lequel on a la fin des illusions jacobines, en un mot pour ce petit livre, c'est l'islam. L'illusion jacobine, c'est la laïcité, c'est l'idée qu'on peut construire une société sans religion et une société où tout le monde il est égaux et où tout le monde il est beau. Ça ne marche pas. Et autant la laïcité est la sœur jumelle de la catholicité et face à l'Église catholique malheureusement a été très efficace, autant face à l'islam. Ça ne marche pas.
Ça ne peut pas marcher par définition.
L'auteur de ce petit bouquin, eh bien, c'est Édouard Balladur lui-même. Je crois qu'il faudrait, à la lumière de ce qui vient de se passer, relire la fin des illusions jacobines d'Édouard Balladur. C'est tout à fait étonnant. Édouard Balladur dit « Il suffit de lire le Coran ». Pour constater ce qu'est l'islam.
Les textes fondateurs
de l'islam iront toujours dans un sens que les croyants les plus peut-être sincères, etc., réprouveront, malheureusement. Et moi, lorsque je discute aujourd'hui avec des musulmans sincères, ils en sont à me dire, oui, mais il y a beaucoup de pages dans le Coran qui ont été ajoutées. Qui sont fausses.
Et
je vous parle ici de musulmans pratiquants et de musulmans qui aujourd'hui se présentent comme leaders ou comme éducateurs de jeunes que je peux rencontrer et voilà ce qu'ils disent.
Coran a été écrit quelques années après la mort de Mahomet, et puis après on n'y a plus touché. Il a été écrit, c'est le troisième calife qui a fait écrire le Coran.
C'est les hadiths, c'est-à-dire toutes les.
Après il y a la Sunna, oui.
Oui, il y a les témoignages.
Témoignages. Ça, c'est pas le Coran. Hein.
Non, mais c'est intéressant.
C'est intéressant. La Sunna, faut lire la Sunna, bien sûr.
Et puis il y a toutes les règles. Alors je sais pas comment ça s'appelle.
Toutes les tout est codifié.
Ce qui est extraordinaire, c'est que on a l'impression enfin, on pourrait croire que on entend très souvent les convertis ou les gens qui sont les chrétiens ou les anciens chrétiens qui sont sur le point de se convertir à l'islam, mais c'est une religion beaucoup plus simple. Hein, il y a un dieu, c'est la religion du désert en somme. S'il y a un désert, il y a un dieu, on se prosterne dans le désert, on adore un seul dieu, tu n'adoreras que lui, etc.
Oui.
Et en fait, quand on lit, quand on entre dans le détail du rituel de cette religion,
oui,
c'est extravagant. C'est extravagant. C'est-à-dire, oui, que tout est absolument codifié.
Ah, moins que chez les juifs quand même. Hein. Parce que chez les juifs, il y a 613 commandements.
Oui, bah alors,
et chez les juifs, c'est interminable.
Moi, je voudrais dire aux auditeurs, c'est simple. Ils ont le choix entre deux types de religions. Les religions de la loi, que ce soit le judaïsme ou que ce soit l'islam. Ce n'est pas la même loi. Loin de moi cette idée de confondre les deux. Mais ce sont des religions qui sont fondées sur cette dynamique de la loi.
Absolument.
Et pour certains juifs, c'est au point que Yahvé lui-même se soumet à la loi et fait Shabbat, puisque le septième jour, il se reposa. Et puis d'autre part, eh bien, il y a notre religion, la religion des Français, la religion de tous ceux qui m'écoutent et qui sont plus ou moins en contact avec elle, soit par leur baptême, soit par leurs ancêtres. Eh bien, c'est la religion de l'amour.
Tout à fait.
Et finalement, on a le choix entre cette loi extrêmement rigoureuse,
tout codifiée. La vie courante est codifiée.
Les préceptes multiples de cette loi.
Tout à fait. Oui.
Et puis d'autre part, cette religion de l'amour qui n'est pas plus facile, parce que l'amour est un maître difficile, mais qui élargit le cœur, qui nous transforme, qui nous change. La loi, c'est du badigeon. Hein. J'avais un adjudant de compagnie qui disait, c'est vrai, il disait peinture sur merde égale propreté.
Bon, c'est
ça la loi
de la marine.
Voilà.
Le Clémenceau en est
raison. Oui. Bon. C'est un badigeon la loi. C'est une couche. L'amour, on essaye vraiment de se transformer. C'est pas toujours facile. Et il faut se convertir plusieurs fois dans une vie parce qu'on est lourd, mais enfin, ça propose vraiment à l'homme un idéal digne de lui.
Tout à fait. Ouais,
je pense que c'est ce que le pape Benoît XVI a voulu nous dire dans cette encyclique sur la charité. C'est très important.
Effectivement, ce qui fait quelque chose qui fait l'intérêt de votre livre. Moi, je vous avoue que je n'ai lu que la partie musulmane parce que, la partie qui concerne l'islam, la partie qui concerne le christianisme, je me suis dit que ça allait m'énerver un petit peu probablement.
Ah, ben...
Donc, j'ai préféré passer en vitesse. Le judaïsme. Je crois connaître un petit peu le sujet.
Oui, on connaît, c'est sûr.
Mais l'islam, j'ai appris des choses. Et effectivement, le dictionnaire comparé, là, c'est tout à fait significatif. Parce qu'on voit bien d'abord que toutes les prétentions à l'œcuménisme, au dialogue et tout ça, ça n'a aucun sens. Puisque tout simplement, pour avoir un dialogue, il faut que les mots aient le même sens.
Oui, c'est sûr.
C'est la base du dialogue. Or, quand on parle de certaines choses, nous, quand on parle de l'amour, par exemple, ou de la charité, ça a un sens pour un catholique que le musulman ignore totalement. C'est pas du tout le même sens. Donc, on peut évidemment débattre avec un musulman autant qu'on veut de la charité, mais ça n'a rien. On parle pas de la même chose. Il y a un spécialiste des papillons qui débat avec un spécialiste des poissons de grande profondeur. Alors, ils peuvent dire effectivement, les deux respirent.
Serge, il faut une grande liberté pour savoir ce qu'il y a sous les étiquettes. Et sous les mots qu'on emploie tous les jours, et je pense qu'il faut la liberté de ce genre d'émission.
Oui.
Parce que évidemment, il est clair que aujourd'hui, dans le comment on appelle ça, le PAF, je crois, le
oui.
paysage audiovisuel, français.
Il y a trois mensonges là-dedans.
Bref,
sauf deux mensonges.
Il est clair qu'on ne peut plus justement voir ce qu'il y a sous les mots et que on se contente. Eh bien, des mots clés, des mots qui font consensus.
Mais par exemple, il y a une chose qui est. Il y a le principe, le christianisme ou le catholicisme repose sur la charité. Hein.
Oui.
Bon, l'islam repose sur les cinq piliers de l'islam, dont l'aumône.
L'aumône, oui.
Alors, quand vous discutez avec des gens, vous dites, mais avec des musulmans, ils vous disent, mais nous aussi on a la charité, oui. On a l'obligation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que c'est pas parce qu'un catholique donne une pièce de 2 balles à un mendiant qu'il est charitable, et c'est pas parce que un musulman va aimer son prochain qu'il aura fait l'aumône. On peut très bien, un musulman peut aimer son prochain, s'il lui donne pas l'aumône, il n'est pas dans dans le fil de sa religion. Et un catholique qui donne 2 balles à quelqu'un qu'il déteste, eh ben, il n'est pas dans le fil de sa propre religion. Donc on voit bien que tout ça, il y a un malentendu, il y a une imposture en fait. Il y a une gigantesque imposture. J'en veux pour preuve le fait de dire, exemple d'imposture qui n'a rien à voir, mais qui est quand même significatif. Depuis le début du procès Zacharias Moussaoui, France Sphincter nous a bassiné à longueur d'émission chaque fois qu'il était question de ce type. Le français Moussaoui.
Ah, moi ça m'énerve, c'est pas un français.
Eh ben Moussaoui, la première fois où il a pu ouvrir sa gueule, il a dit je ne suis pas français.
Bien sûr.
Voilà. Bon, c'est terminé.
C'est sûr qu'il n'est pas français.
On est français si on veut l'être, si on veut pas, on n'est pas français. Bon, alors, il peut avoir tous les papiers de la terre, sécurité sociale, carte d'identité, tout ça. C'est pas ça qui va faire de lui un français.
Le français. Quand ils nous disent la djihad. Il y a une définition quand même. Un français, c'est un blanc chrétien.
Quand non, moi,
je dirais pas, on est blanc depuis la nuit des temps et on est chrétien depuis 2000 ans.
Je ne dirais pas ça, moi, personnellement.
Non, moi non plus.
Je ne dirais pas ça.
Catholique,
mais
certainement.
Il faut vouloir l'être,
Mais il y a pour tous les gens moi, je peux vous présenter des gens des Dom-Tom, des Antillais, des Réunionnais qui sont très exactement aussi français que, en tout cas, que moi.
Oui. Et parfois plus qu'un français de souche.
Mais, quand les musulmans nous disent aujourd'hui la djihad ou le djihad, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, c'est une guerre contre soi-même, contre ses mauvais penchants, c'est un mensonge pur et simple.
Ça, c'est sûr.
Le djihad, c'est une guerre armée
contre les infidèles.
Assassine contre les infidèles.
Contre les infidèles,
et c'est proclamé à longueur de journée dans les livres.
Ça, c'est marqué dans le Coran, de toute façon. Hein.
Voilà, et bien, ça, tiens, puisqu'on en parle, c'est un auditeur qui signe lui-même un nègre fin. Donc, il sait de quoi il parle. Les Jeux Olympiques de Turin sont racistes, la neige est blanche et les participants ne sont guère noirs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de champions de ski noirs. Voilà. La Bible est pleine de prophètes guerriers. Quant au visage peint en Iran, c'est le visage du 4e calife Ali. Et non, mais maintenant, monsieur, c'est pas vrai. Comme en Iran, il est interdit de peindre le prophète et il faut le rappeler, les premiers chrétiens qui pratiquaient 40 jours de carême et ne mangeaient pas de porc, ça se respecte encore. Chez certains chrétiens d'Orient. Oui, ils ne mangent pas de porc, tout simplement, parce que le porc dans ces pays-là existait assez peu. Et surtout, c'est une viande qui est extrêmement dangereuse quand elle n'est pas traitée comme il faut. Donc, c'était une question d'hygiène. Mais on n'en avait pas fait, comme aujourd'hui, une espèce de principe qui s'impose même au préfet d'Alsace.
Jésus-Christ a dit que tout ce qu'on pouvait manger de tout, il l'a bien expliqué. C'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est impur, c'est pas ce qui rentre dans l'homme qui est impur. Donc il a bien dit que toute l'alimentation,
on peut manger tout. Dans l'Ancien Testament, on propose d'exterminer les races impures, ayez le courage d'en parler. Mais j'ai tout à fait le courage d'en parler, cher monsieur, parce que moi je suis pas un adepte de l'Ancien Testament, je suis un fidèle du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de ça. Si l'on n'a pas le droit de présenter Mahomet, ne serait-ce pas parce qu'il n'existe pas?
Ah ben non. Oh, il a existé.
Il y a en tout cas une chose, et parce que il y a un autre message là qui m'a passé le marquis dans ce sens-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a fait une campagne contre Jérusalem en 629. Et ça, c'est attesté par les chroniques byzantines. Donc il n'y a absolument pas de doute sur son existence historique.
Mais il n'est pas monté. Il a été à Jérusalem pendant son sommeil avec Gabriel.
Il est vrai que toute la légende au sujet de la vie de Mahomet qui s'est développée un ou deux siècles après n'est pas vraie. Mais néanmoins, le personnage existe comme un chef de guerre.
Bien sûr qu'il existe.
Et moi, j'en profite après tout pour dire aux auditeurs qu'ils peuvent toujours nous commander le numéro 2 de la revue Objection sur les origines de l'islam. Je crois que ils auront des éléments qu'ils ne trouveront pas ailleurs sur ce sujet. Le commander donc au 12 rue Saint-Joseph, Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, 75002 Paris. Et un auditeur me dit qu'il ne l'a pas reçu. Je lui demande très simplement de nous rappeler, parce que en principe tous ceux qui en ont fait la demande l'ont reçu, au 01 40 26 01-40-41-78. Excusez-moi ce...
Vous pouvez le répéter, 01-40-26-41-78.
Exactement.
Facile, hein. Non, mais je suis une espèce de... d'oudiné.
Formidable. Iroska.
Il est destiné à qui, votre livre, finalement
C'est un livre de vulgarisation, il est destiné à tout le monde.
Hein. Si tout le monde l'achète, vous allez devenir vite milliardaire.
Oui, ouais, non, je pense pas, parce que je suis pas médiatisé, je médiatise sur Radio Courtoisie, mais bon, je passe pas à TF1 ni à Antenne 2, alors c'est...
Il faut pas rêver.
Non, mais c'est attends, quand même limité. C'est pas ça qu'il fallait écrire,
Bah, c'est sûr.
Je sais pas, les mémoires de...
oui, c'est sûr.
C'est sûr.
Non, il est destiné à tout le monde, c'est un livre de vulgarisation. De toute façon, moi, je suis pas... Je suis pas un intellectuel, hein. Je suis pas un universitaire, donc mon livre il est lisible partout.
C'est pas une tare de pas être universitaire.
Non, je suis bien,
mais je suis éloigné de ça.
Je prends pas comme une tare, donc c'est un livre qui se veut didactique quand même.
En tout cas, c'est un livre fait par quelqu'un qui s'adresse. En fait, on a l'impression que vous vous adressez à des gens qui sont un peu comme vous au départ.
Oui,
vous avez travaillé. Vous êtes intéressé à une question, vous l'avez travaillé, vous l'avez étudié. Voilà. Vous dites, bon, ce que j'ai pu comprendre et retenir, je vais le faire partager aux autres, ça leur fera gagner du temps.
Exactement.
Bon, voilà. Alors, il y a des choses, je dis, avec lesquelles je suis pas d'accord, mais
oui.
Je trouve qu'il y a des comparaisons qui sont, ou des assimilations qui me paraissent un peu hasardeuses. C'est-à-dire quand vous dites que les trois religions sont ont été des religions d'oppression, bon, c'est peut-être pas totalement faux. Enfin, il faut bien reconnaître que nous, il y a fait quand même un certain temps qu'on a arrêté de prier.
Ah bah tout à fait, c'est évident. Non, voilà. Mais je parle historiquement parlant. Historiquement parlant, il y a eu les dragonnades et puis il y a eu l'Inquisition. Bon,
ah mais les dragonnades, c'était pas l'Église. Les dragonnades, c'était le pouvoir temporel.
Oui.
En plus, ça faisait pas de mal.
Ça, c'est l'histoire. Hein.
Ça renouvelait un peu le sang.
C'est l'histoire.
Aïe. Non, mais les dragonnades, c'était pas une bonne chose.
Mais
d'ailleurs, c'est très surprenant sur cette affaire de la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Il y a quand même deux grands historiens du règne de Louis XIV et deux grands modernistes, comme on dit, deux grands historiens de la modernité, qui sont d'une part François Bluche et d'autre part Jean de Vigry. Et François Bluche, protestant, défend.
Ouais.
La révocation de l'édit de Nantes,
sure.
C'est-à-dire défend l'idée que Louis XIV ait voulu réaliser l'unité religieuse de son royaume, tandis que Jean de Vigry, catholique et ô combien, lui critique cette mesure de Louis XIV et estime qu'elle était particulièrement malvenue.
Moi, j'aime pas du tout les gens qui critiquent Louis XIV. Louis XIV, c'est le roi parfait, c'est le plus grand roi de toute l'histoire du monde, et pas avec l'empereur Chine, dont on parlera prochainement. À ce micro.
Moi, je m'étais laissé dire qu'elle n'était pas très sympathique, cette lady de Nantes.
Bon. Oui, c'est pour ça qu'elle a été révoquée, d'ailleurs.
Mais moi, je reproche quand même à Louis XIV, quand les Turcs ont assiégé Vienne, Louis XIV n'a pas été donné un coup de main à Vienne, et ça, je lui reproche
C'est
une vieille histoire française.
Ouais.
Ça a commencé sous François Ier, l'alliance avec les Turcs, ça a continué à les pentes où il y avait, je crois, en tout trois bateaux français,
ou
une armada chrétienne.
Mais pour en revenir aux discriminations puis aux martyrs, c'est vrai que depuis 2000 ans, les chrétiens ont été martyrisés, il y a eu des milliers de martyrs chrétiens et de discriminés, et les juifs, alors que les musulmans n'ont jamais été discriminés, parce que les musulmans ont toujours été les maîtres, en fait, de où ils étaient, donc ils n'ont subi aucune discrimination.
Tant mieux, à mon avis, c'est
de ce côté-là,
on est suffisamment occupé par
clair.
Les autres, c'est pas la peine de s'ajouter ça. Alors ça s'appelle donc Les religions du livre, c'est un livre de vulgarisation simple à l'usage des gens qui, comme moi, ils ne savent pas grand-chose. Et ils en apprendront plein en lisant ce livre qui est paru.
Et j'ai découvert qu'il était référencé à la FNAC, je ne le savais pas. J'ai découvert ça l'autre jour par hasard en allant sur Internet, j'ai vu qu'il était référencé à la FNAC.
Les religions du livre de... Alors c'est votre prénom qui m'échappe.
Jean-Claude.
Jean-Claude, oui, parce qu'entre les Jean-Claude, les Jean-Paul...
Ah oui, c'est vrai qu'il y a
Jean-Claude. Jean-Claude Hermance, c'est paru chez Godefroy de Bouillon.
Godefroy de Bouillon, tout à fait, oui.
Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Absolument,
et même dans les mauvaises, la preuve, il est vendu à la
FNAC. Oui, chez Pinault.
Merci, monsieur Hermance. Et je me tourne maintenant vers l'abbé Guillaume de Tannouarn pour lui demander d'avoir la gentillesse de nous présenter Monseigneur Campos. Moi, je renonce à le faire, parce que je suis un évêque. Je crois que c'est la première fois que je reçois un évêque dans ces murs, et je suis très impressionné. Bonsoir, Monseigneur.
Bonsoir. Eh bien, écoutez, en tout cas, on est tous extrêmement fier de recevoir cette visite amicale de Monseigneur Rifan, qui est de passage en France, et qui a bien voulu accepter de donner une conférence dans le cadre de notre premier carrefour apostolique. Donc on organise un carrefour apostolique 5 rue de la Croix-Nivert au Forum de Grenelle mardi prochain, le 21 février. Commencement à 19h30 et Monseigneur parlera à 21h.
Il faut dire aux habitués qu'il n'y aura pas de conférence ce soir-là.
Et il n'y aura pas de conférence ce soir-là au Centre Saint-Paul.
À Saint-Paul, oui.
Voilà. On se transporte tous avec beaucoup d'affection au Forum de Grenelle pour écouter Monseigneur Rifan. Mais peut-être beaucoup d'auditeurs ne le connaissent pas, parce que Monseigneur Rifan est brésilien. Il nous vient du bout du monde. Et Monseigneur Rifan, je voudrais très simplement vous dire, pour tous ces Français qui vous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Voilà. Bon, bonjour ou bonsoir à tous. Veuillez m'excuser parce que mon français, c'est pas...
Oui, en général, ça commence comme ça, et puis vous parlez tout ça. Un français parfait, donc.
Oui, oui. Je suis brésilien et je viens d'arriver du Brésil. Mais c'est avec plaisir que je suis ici. Je salue tous les auditeurs et vous, et la belle Tanoire. Oui, je suis à votre disposition. Je suis en visite ici. Et quand un évêque visite, parfois, il profite de retirer beaucoup de choses. Bon, j'ai visité aujourd'hui Monsieur 23, qui c'est l'archevêque de Paris. Et maintenant, je suis dans une famille et je visite les amis. Bon, comme c'est un passage, je profite pour parler aux gens, pour donner quelque chose de bien que l'évêque doit faire toujours.
Alors, Monseigneur, je sais que vous êtes par ailleurs un vétéran de la radio, donc ça, je ne doute pas que vous puissiez dire quantité de choses importantes et que vous ne sachiez les dire, mais je voudrais simplement, à l'attention des auditeurs, souligner que vous êtes évêque. Vous êtes évêque de Campos au Brésil, et vous célébrez la messe traditionnelle latine et grégorienne. C'est quand même quelque chose d'un petit peu exceptionnel aujourd'hui.
Ben voilà. Bon, bien. L'habitude de la radio, j'ai déjà parlé aux radios pendant 20 années tous les jours. On avait un programme au Brésil. Et aussi, on continue. Mais maintenant, comme je suis un évêque, c'est notre prêtre qui parle. Mais c'est bien, je suis content. Bon, je suis un évêque, j'ai 3 années et demie d'évêque, sacré par le cardinal Castrillon Royos, envoyé par le pape Jean-Paul II au Brésil. Et je suis nommé administrateur apostolique d'une administration apostolique personnelle Saint-Jean-Marie Vianney au Brésil c'est créé par Jean-Paul II, le pape, pour les catholiques attachés à la messe traditionnelle. C'est pour ça que je suis l'évêque et c'est pour ça que j'ai dit la messe traditionnelle, parce que c'est pour ça qu'il a été créé cette administration apostolique. C'est comme une diocèse, comme les autres, mais personnelle pour tous ceux qui veulent continuer avec la messe traditionnelle, avec les églises, les paroisses normales et avec la tradition liturgique.
Mais alors, Monseigneur, votre histoire est un peu une success story, excusez-moi, et ce serait intéressant peut-être que vous en parliez aux auditeurs, d'autant plus qu'en France, je dirais que les aléas du monde traditionnel font en ce moment que la dominante est un peu chez les fidèles
à
la dépression, à l'inquiétude, et je crois que Serge, vous m'en parliez vous-même, enfin
ouais.
Ces curés sont pas fiables, décidément, disiez-vous, enfin je crois quelque chose comme ça.
Mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on est, pour les fidèles, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première question, c'est pourquoi ce qui est possible au Brésil n'est pas possible en France. Plutôt, je dirais, la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de résistance? Alors, en France, je sais pourquoi. Je ne le dirai pas pour ne pas vous engager dans un débat où vous n'avez pas
à rentrer.
Mais on voit bien que il y a eu une formidable résistance ou plutôt une formidable agressivité contre la messe traditionnelle. Et j'ai l'impression que c'est un peu une spécificité européenne, ça. Parce que cette espèce de rejet, cette espèce de mensonge, disons le mot, à travers lequel on a dit que c'était une messe interdite, alors qu'en réalité elle n'a jamais été interdite, pour autant que je sache, a cristallisé les antagonismes, il a fait que les gens se sont repliés sur eux-mêmes, et ça a fini par donner ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire une série de séparations, de divisions à l'intérieur même de la tradition, chacun surenchérissant sur l'autre, dans le sens soit de la plus grande pureté du rituel, soit d'un rapprochement avec l'Église officielle, je dirais, et ça met une très très mauvaise ambiance. Alors, à votre avis, Monseigneur, qu'est-ce qui fait que cette mauvaise situation qu'on connaît en France, qui est vraiment une situation extrêmement désagréable, lourde à supporter pour les fidèles, n'existe pas, ne semble pas exister de la même manière ailleurs?
Bon, ça existe aussi, mais vous savez que le pape, notre pape Benoît XVI, maintenant, il a parlé beaucoup contre ça. Il a dit qu'il ne comprend pas cette attaque à la messe traditionnelle, parce que l'Église jamais a fait ça, parce que même que l'Église a fait la moderniser en rite, elle jamais a condamné les rites passés, sinon c'était une condamnation de soi-même. Et il a jamais fait ça, parce qu'il ne peut pas condamner une chose qui s'était en vigueur pendant 15 siècles dans l'Église. C'est pas comme ça. Et le pape même, il a parlé plusieurs fois de plusieurs livres contre cette attaque aux méprises, aux attaques même à la messe traditionnelle. Bon, ça existe partout. Peut-être que, un peu d'ignorance, je peux dire que quelqu'un juge que la conservation de la messe traditionnelle peut détruire l'unité de l'Église. Ça, ce n'est pas vrai, parce que l'Église existe 22 rites différents. Parmi les rites orientaux, même les rites de romains, latines, il y a plusieurs différents. Le rite de Portugal, le rite de l'Italie, de Milan, il a plusieurs, l'Ambrosien, il a plusieurs rites, même les rites latines. Et les orientaux sont plusieurs, syriaques, maronites, des choses comme ça. C'est l'expression de la même foi, des mêmes sacrifices de la messe. Et le rite romain, la formule que nous conservons, c'est la messe traditionnelle, c'est en vigueur jusqu'en 1969, depuis les conciles de Trente. Mais même les conciles de Trente n'ont pas inventé la messe. On dit tridentine, c'est pas une expression tout à fait correcte, parce que le pape Paul VI a dit qu'elle existe depuis Saint Grégoire, depuis le 4e siècle. Si elle existe depuis le 4e siècle, voilà que c'est beaucoup de temps qu'elle existe dans l'Église. On peut même dire que c'est une tradition apostolique. L'Église a pouvoir de faire la correction, ce n'est pas une question de ça. Mais ceux catholiques qui veulent conserver la messe traditionnelle, c'est pour une question, c'est pas seulement des goûts, des meilleures peut-être expressions de sa foi, de la révérence, de l'adoration, de silence, de la beauté, parce qu'il vient. Et elle vient ensemble avec beaucoup de choses. L'architecture, beaucoup de choses sur les chants grégoriens, c'est tout ça ensemble, qui peut exister aussi dans la messe nouvelle, mais c'est rare quand même.
Si je peux me permettre une comparaison. Moi, en tant que catholique traditionnel, catholique de tradition, c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Quand je vais à la messe conciliaire, j'ai l'impression que mon père s'est remarié.
Oui, pourquoi ça?
Ben parce que la messe traditionnelle, c'est là-dedans que j'ai été élevé, c'est la voix de ma mère.
Oui.
Et quand je vais à la messe conciliaire, je dis, ben, pas mal, cette personne-là, pas forcément antipathique, mais c'est pas ma mère, c'est la deuxième femme de mon père.
Bon, peut-être on peut exagérer ça, mais écoutez, bon, c'est la voix de laïc, de pas théologiquement.
C'est rudement bien vu, quand même.
On doit dire que la messe, même la nouvelle messe, et la messe catholique, quand même. Mais le pape Jean-Paul II a dit que les catholiques qui préfèrent la messe traditionnelle, ils ont des raisons, ils ont des raisons qui sont sérieux, sont pas seulement sentimentalisme ou nostalgie, non, c'est pas comme ça. Ils l'aiment parce que ils veulent ça, sa expression de sa foi, de sa révérence, et le pape dit c'est légitime cette adhésion à la messe traditionnelle.
Ça, oui. C'était, vous dites, c'est Jean-Paul II qui...
Oui, Jean-Paul II.
Pourquoi ne l'a-t-il pas dit, à votre avis, à votre connaissance, pourquoi ne l'a-t-il pas dit d'une façon plus vigoureuse, plus radicale, en disant, bon, écoutez, c'est comme ça, voilà, et puis, oui. Pourquoi ne s'est-il pas imposé, n'a-t-il pas imposé la volonté de, souvent un pontife, aux évêques du monde, quand je dis du monde...
Non, mais il a écrit la lettre avec les aidés, il a dit, je demande aux évêques d'être généreux avec ces catholiques qui préfèrent la messe traditionnelle, comme moi-même, il faut ouvrir la porte des églises pour ça.
Vous voyez bien que dans
si les évêques n'écoutent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Même dans l'utilisation du mot généreux, c'est-à-dire, généreux, c'est donner quelque chose, c'est faire une concession, quelque chose.
Oui, bah, vraiment, c'est une concession, parce que...
C'est comme ça.
Oui.
C'est pas... Si on dit pas au directeur du fisc, je vous demande d'être généreux et de rendre les impôts que vous avez touchés, alors que vous n'aviez pas le droit de les toucher, c'est un dû. Donc si cette messe, elle est valide...
Il fallait une exigence.
Elle est valide, point à la ligne. Je vous demande pas d'être généreux, vous devez considérer qu'elle est valide, et par conséquent, vous n'avez pas le droit d'interdire sa célébration.
Oui, mais écoutez...
C'est un peu le sentiment que moi, je parle encore une fois comme un laïc. Hein,
je comprends. Mais écoutez, la messe normale, la messe actuelle, c'est fait la réforme liturgique après 1969, c'était imposé par l'ordre du pape, même c'est le rite normal de l'Église aujourd'hui. Mais l'autre, la que nous conservons, il a le droit de citoyenneté. Oui, c'est du sang.
Loi de cité, plutôt.
Loi de cité, on peut
dire ça. Citoyenneté, c'est autre chose.
Loi de cité, qu'est-ce que le cardinal Castillon qui a utilisé cette expression. Dans l'Église, on doit conserver. Mais peut-être le pape ne veut pas troubler les évêques, parce qu'il a l'autre est aussi adopté partout. C'est peut-être ça. Mais il faut reconnaître qu'il a eu un droit que le pape a concédé. Il a demandé aux évêques d'ouvrir les portes. Donc, on attend aux évêques.
L'impression qu'ont certains fidèles, c'est, dont je fais partie, hein, c'est les méchants, le mauvais caractère, c'est que l'Église ne parle pas d'une voix d'airain. C'est-à-dire, là, je viens de vous dire une chose, mais je pense à un autre aspect. Il y a un fait qui est quelque chose de bouleversant et de véritable tragédie pour le monde, c'est l'avortement. Et moi, je me demande toujours pourquoi le pape ne dit pas, tout simplement, tout laïc ou tout homme qui se prêtera à cette pratique est excommunié, point à la ligne. Alors que ça vous concerne pas parce que vous êtes franc-maçon, vous êtes israélien.
Est-ce que je peux vous interrompre,
oui.
Serge ? Moi, je veux vous interrompre non pas en tant qu'évêque, mais très modestement en tant que confesseur. Bon, le droit canon prévoit cette excommunication late sententiae, c'est-à-dire de 102 sentences ipso facto, voilà, c'est boum.
Mais
le droit canon ancien comme nouveau. Mais encore faut-il être au courant. Or quand quelqu'un qui souffre, parce qu'une femme qui vient d'avorter est forcément une femme qui souffre. Et vraiment là, je ne vous le dis pas pour jouer du violon. Je l'ai vu parfois 50 ans après l'acte. Oui. J'ai vu des femmes pleurer de ce qu'elles avaient fait. C'est quelque chose de très émouvant, j'allais dire pour nous mâles. Excusez-moi, mais je ne vais pas. Personnellement, comme confesseur, leur dire, mais vous savez qu'en plus, dans le droit canon, il y avait cette... Non. Je crois qu'il faut laisser quand même...
Faut pas en rajouter au malheur.
Ça, c'est un plein subjectif. Le plein objectif, il existe une excommunication très grave pour ceux qui font l'avortement avec l'effet qui...
Je sais bien, mais ce qui m'étonne, c'est une espèce de discrétion.
Mais l'Église, il faut qu'il attaque, il faut que les prêtres prêchent ça, ils parlent toujours contre ça, et surtout contre ce que fait la propagande de l'avortement.
Et ce qu'on fait la loi aussi.
Et voilà, plus, je pense, contre ceux qui font la loi et contre ceux qui agissent dans la culture pour banaliser l'avortement jusqu'en France à le faire.
Oui, aux États-Unis, même les évêques, ils refusent de donner la communion à ces députés qui votent ça.
Plutôt que la femme qui peut-être il peut y avoir une explication aussi. C'est pas la même chose que le législateur.
Je crois qu'en tout cas, il faut pas accabler les femmes dans cette affaire. Et que l'évangile nous montre bien que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre.
Et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit caillou qui tombe sur le nez de Marie-Madeleine et le Christ se tourne en disant « Maman, je t'en prie ».
Voilà.
Voilà.
Monseigneur, peut-être on est en train de dériver, mais agréablement. Mais peut-être vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire pour expliquer le caractère spécifique de votre situation, de votre position dans l'Église.
Oui, là au Brésil, c'est une situation. Notre situation était un peu spécifique parce que nous étions dans une diocèse qui avait un évêque, c'est Monseigneur de Castro Mayer, qui l'a conservé la liturgie, la tradition. Et il a été nommé évêque 1988, le même année que le pape Pie XII a écrit la Mediator Dei, c'est l'encyclique pour faire attention aux problèmes liturgiques. Bon, il a conservé bien toute la fidélité au magistère pendant toute cette année qu'il a conservé. Et même après la édition de la réforme liturgique, il a conservé, il a écrit à Rome en disant, écoutez, je vais conserver la messe traditionnelle, j'ai quelques critiques à la nouvelle messe, et il a demandé au pape de conserver. Le pape n'a pas répondu, il a dit, bon, bien, je vais conserver la messe traditionnelle. Il a conservé dans tous les temps. Je suis ordonné prêtre en 1974, j'ai dans 32 années de prêtre, déjà, 30 ans de prêtre, et dans ce temps-là, on conservait dans toutes les paroisses, au moins dans les grandes parties de Paris, ils n'obligeaient pas, après 69, ils n'obligeaient pas la messe traditionnelle. Mais ils conservaient lui-même dans la cathédrale, dans le séminaire et dans plusieurs paroisses. Et nous avons conservé la messe traditionnelle après ça. Quand est revenu notre évêque a adopté la nouvelle messe dans plusieurs paroisses. Le prêtre, il a fait une question, une bataille contre l'évêque, on veut conserver. Bon, et l'évêque a retiré les prêtres des paroisses, ils ont conservé dans une petite chapelle. Ça, sa situation irrégulière quand même, il s'est duré jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire 20 ans. Ils ont conservé dans une petite chapelle, mais quand même il y avait des mondes, c'est pas seulement les prêtres.
Et vous avez...
Moi, quand j'ai sorti de l'âge paroisse, j'ai une procession de 10 000 personnes avec moi pour aller à la chapelle et tous les paroisses aussi. Bon, on a conservé
et
ça.
Vous avez reconstruit, Monseigneur Desjeux.
Oui, nous avons reconstruit des chapelles, des églises, et on a conservé cette situation régulière, mais toujours en pensant, bon, il faut un jour réaliser cela. Bon, après c'est l'année 2000, et avec ça nous étions en amitié avec la fraternité Saint-Pie-X, et aussi en Italie, mais la situation en France, mais c'est une situation un peu différente là-bas. Après l'année 2000, le pape a invité pour le jubilé, il a proposé par le cardinal Castrillon une réconciliation. Parce que nous avions un évêque qui était sacré par un évêque de la fraternité. Le pape dit, oui, on peut régulariser votre situation. Nous étions ensemble avec la fraternité Saint-Pie-X, mais la fraternité Saint-Pie-X a refusé la régularisation. Ils nous ont continué. Et après, il nous a dit, on va régulariser tout. On reconnaît votre évêque. On va donner une successeur, que c'est moi maintenant. Et on va reconnaître toutes les paroisses, tous les prêtres, et c'est ça. Oui, nous avons accepté et nous avons la situation régularisée. Donc, le pape a dit, je vous promets une administration apostolique. Il a créé ça, il nous a donné le 18 janvier 2002, il a créé une administration apostolique, le cardinal Castrillon, au nom du pape. Il était au Brésil, il a créé ça, il nous a donné tout cette, avec le pouvoir d'avoir séminaire, institut religieux, congrégation religieuse, paroisse, prêtre, et tout ça, et les fidèles et personnel. Et c'est ça, je pense que c'est un bon...
Mais alors, Monseigneur, si je peux me permettre, parce qu'il y a un message d'auditeur qui va très bien avec ce que vous êtes en train de dire, parce que les auditeurs disent administration apostolique, c'est pas bon. L'immense majorité des fidèles de la fraternité Saint-Pie-X est opposée à une administration apostolique calquée sur celle de Campos, c'est-à-dire la vôtre, Monseigneur, où il serait transformé en réserve d'Indiens. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que vous avez l'impression d'être une réserve d'Indiens?
C'est une bonne réserve d'Indiens, parce que c'est une réserve ouverte, oui. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir.
Au Brésil, c'est pas étonnant.
Non, c'est pas comme ça. C'est une mauvaise comparaison.
Écoutez, qu'est-ce que c'est? En fait,
administration apostolique, voilà. Écoutez, les papes gouvernent l'Église par différentes divisions. L'Église est divisée en beaucoup de choses. La première division, c'est diocèse. Vous avez diocèse, vous avez des prélatures, vous avez des ordinariats militaires, vous avez éparchie orientale et vous avez administration apostolique. Ce sont plusieurs manières que le pape a pour diviser les circonscriptions ecclésiastiques. Ça veut dire...
Et ça peut se recouper.
Oui, ce sont des églises particulières. Quand ça s'appelle une chose qui n'est pas une diocèse, c'est une autre type d'organisation, un autre type de circonscription, peut-être ordinariat militaire, par exemple. Ordinariat militaire, c'est le diocèse aux armées. C'est pour les gens qui sont des armées, les militaires. Ils ont l'évêque, ils ont le chapelain pour attendre les catholiques qui sont des armées. Il y a aussi, pour nous, on peut créer cette chose personnelle. Par exemple, vous avez des éparchies maronites ici, mais c'est pour tous les catholiques maronites. Vous avez des administrations apostoliques comme Opus Dei, ils sont une prélature personnelle. L'administration apostolique, c'est la même chose qu'une diocèse. Il faut pas avoir peur de nom. C'est pas une chose, c'est établi par l'Église de manière permanente, fixe. C'est l'administration apostolique personnelle, c'est-à-dire pour attendre à toutes les personnes, c'est pour ça que c'est personnel, personnes qui arrivent. C'est pas divisé pour les territoires. Non. C'est pour toutes les personnes qui veulent être attachées à la messe traditionnelle. C'est un rite avec l'évêque. C'est une circonscription normale et le droit canon dit, c'est la même chose qu'une diocèse et l'évêque a le même pouvoir qu'un évêque diocésain. Donc, c'est une bonne chose. C'est pas un problème. C'est pas seulement une diocèse parce qu'il n'occupe pas un territoire.
C'est ça.
Par exemple, si.
C'est un groupe de personnes.
Oui, c'est un groupe de personnes. Ici, au Brésil, nous avons 30 000 personnes, dont une trentaine de prêtres, plusieurs paroisses, 150 églises. Et ça marche bien, même à côté des deux autres églises normales, qui sont paroissiales, ou sont diocésaines, avec un bon rapport avec l'évêque diocésain, avec les prêtres, c'est bon. Ils ont l'indépendance. Nous avons l'indépendance.
Monseigneur, je me permets juste, vous m'avez raconté tout à l'heure une petite anecdote que je trouve amusante et que j'aurais aimé que vous racontiez aux fidèles à propos d'une cérémonie pénitentielle organisée par l'évêque de Campos.
Ah oui, je vais raconter ça. Bon, parce qu'autrefois, nous étions traités comme quelque chose d'excommunié et schématiquement. Et cette année, par exemple, l'évêque diocésain, qui est peut-être mon ami, c'était un ancien professeur au séminaire, l'évêque diocésain, il a ordonné pour M. de Castelmayac comme moi, même. J'ai chanté à son ordination quand j'étais enfant de cœur. C'est le même. Mais l'évêque, il fait dans la Semaine Sainte une cérémonie pénitentielle pour les fidèles, il fait tout le monde dans la cathédrale, tous les prêtres aussi, tous les fidèles, il fait l'examen de conscience, la prédication, l'acte de contrition, et après, tous vont au confessionnel pour confesser avec le prêtre. Mais le premier à se confesser, c'est l'évêque. Il se confesse au sanctuaire, en face de tout le monde.
Je trouve ça magnifique. Vous imaginez des évêques français se confesser
en
public.
Pour donner l'exemple. Et il arrive, il appelle un prêtre, il se met à genoux, il se confesse. Mais cette année, il a appelé un de nos prêtres de l'administration apostolique. Il s'est confessé avec un de nos prêtres. C'est-à-dire, il donne pour un public témoignage qui notre confession, c'est valide, c'est normal, et tout le monde peut confesser avec nous. Je pense que c'est une bonne chose.
Il avait juste un petit problème de micro, vous m'avez dit.
Ah non, c'est un anormal. C'est vrai, parce qu'il a oublié le micro. Bah, après qu'il a commencé, il a désaccroché les micros. Mais c'est pas de problème. Ça dit que l'administration apostolique, et le pape Benoît XVI, que j'ai rencontré le mois d'octobre, il m'a dit, écoutez, vous êtes l'exemple pour tous les petits groupes du monde que vous pouvez garder la tradition liturgique en pleine communion avec l'Église. Il faut pas sortir de l'Église pour garder sa tradition. Vous pouvez être de la tradition, de la messe traditionnelle et en pleine communion reconnue par homme.
Alors, vous dites que vous avez rencontré le souverain pontife. Moi, je voudrais vous poser une question de journaliste. Alors là, pas du tout de... comment est-il ? Je veux dire, est-ce qu'il donne une impression d'autorité, de
non, si
de
jamais.
Douceur, de...
Il n'est pas un panzer cardinal, comme on l'a dit. Non, pas du tout. Il est un homme très doux, et je peux même dire, pour moi, il est plus sympathique que Jean-Paul II. Même que Jean-Paul II, il n'y a pas un charisme extraordinaire, il parlait à tout le monde, les médiatiques. Mais le pape, il est plus simple, plus humble, un professeur qui comprend bien. C'est ça, cette propagande qu'on en fait, qui est un homme, un théologue très fort. Non, il est un homme très simple, très accueillant, c'est très, très sympathique pour parler avec lui, même s'il est vraiment un cochon.
Monseigneur, moi j'ai eu l'impression avec l'arrivée de Benoît XVI, tout de suite évidemment, après Jean-Paul II, qu'on sortait un peu de Disneyland.
C'est laïque qui parle, c'est pas un évêque.
Non, mais cela dit, quand l'évêque parle et qu'il exprime ce que vous venez de dire à propos de la différence entre Jean-Paul II et Benoît XVI, on peut dire aussi que c'est un évêque brésilien qui parle d'un évêque polonais. Et ça montre bien la diversité extraordinaire de
oui, c'est l'Église catholique, c'est l'unité dans l'université. Oui, il a plusieurs, vous êtes français, je suis brésilien. Mais nous sommes catholiques quand même.
Au sujet du Brésil, Serge de Becquetch, est-ce que je peux interjeter cette fois la question d'un mécréant, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns à l'écoute. Est-ce que la fracture, même étroite, que vous venez de décrire, Monseigneur, dans l'Église catholique au Brésil, n'explique pas, en partie, que ces sectes protestantes américaines soient en train de dévorer vivant votre troupeau ?
Peut-être, cette division, la théologie de la libération, etc. Brésil, c'est très avancé. Et peut-être ça, parce que le cardinal de Saint-Paul m'a dit, écoutez, nous avons fait l'option pour les pauvres. Et les pauvres ont fait l'option pour les sectes.
Voilà qu'ils y vont. Ah, c'est terrible cette phrase.
Oui, bien sûr.
Où nous ont perdu les pauvres. Parce qu'ils font toujours la théologie de libération, il faut s'occuper des questions sociales. Et c'est bien dit, c'est le dernier encyclique de pape. Ils mettent les points. C'est pourquoi l'Église fait l'œuvre sociale. L'Église, c'est pas comme une société de philanthropique. Non, c'est différent. C'est bien,
ça, c'est extraordinaire dans l'encyclopédie, excusez ce lapsus, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le pape arrive à parfaitement montrer en quoi la solidarité ou la bienfaisance ou comment appelle-t-on ça, les ONG, c'est une donnée païenne, c'est une espèce de caricature païenne de la charité chrétienne. Et on revient donc à un système de faux semblants. On fait semblant de faire la charité ou de pratiquer la charité, alors qu'on pratique seulement une espèce de charity business. Et c'est ce que font les sectes. Parce que pourquoi les pauvres vont-ils
faire ? Ils profitent de la pauvreté des gens. Et même parfois, ils font l'exercice illégal de la médecine. En disant qu'il ne faut pas prendre les médicaments parce que Jésus va guérir tout le monde. C'est faux. C'est pas ça. Et l'évangile, notre Seigneur, dit que les malades ont besoin de médecins.
Cette diffusion de sectes. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous pouvez.
Je pense que la solution, c'est la vraie pratique religieuse, c'est cette donnée. L'intelligence de la fides quaerens intellectum, c'est la foi qui voit être bien compris. Il ne faut pas se profiter, parce que les sectes profitent d'ignorance populaire. Il faut donner le catéchisme, donner la vraie raison pourquoi nous sommes catholiques, des choses comme ça. Il faut enseigner les gens à penser, et parce que ce faut pas. Et l'apologique, c'est-à-dire apologétique, c'est-à-dire défendre la religion, c'est la raison pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça.
Je crois qu'il y a un autre aspect quand même aussi, qui est un aspect certainement secondaire, mais qui compte beaucoup malgré tout, c'est le fait que, si vous regardez les sectes, elles ont adopté les signes extérieurs de l'Église triomphante. Alors que l'Église, quand elle fait l'option pour les pauvres, elle croit, enfin les prêtres et les évêques qui ont fait cette option, ils croient que c'est en se dépouillant des apparences,
du faste, du de faste, la beauté liturgique.
Ils vont aller vers les pauvres. Et la seule richesse des pauvres, c'est la beauté du rituel.
Ah oui, c'est vrai.
Bon, si on leur enlève ça.
Maintenant, j'ai construit dans notre église, dans ta cathédrale. Je fais la plus beau possible avec toutes les peintures. Parce que l'église, c'est la maison des pauvres. Ils doivent se sentir bien dans l'église. C'est ma maison. Ils sont bien reçus là, quand même.
Si ça ressemble à leur cuisine,
ça les intéresse pas.
C'est pas convaincant.
Moi, j'avoue que j'ai eu la chance de commencer mon ministère en Afrique pendant 2 ans. Et j'ai vu en Afrique, tout ce au nom de quoi Mgr Lefebvre a combattu. Pourquoi est-ce que Mgr Lefebvre a été si ferme sur la liturgie? Parce qu'il dit, j'ai vu les effets de cette messe en Afrique, il n'y a pas de raison que cette messe bien célébrée, bien dite, dans la beauté...
Ça ne signifie pas qu'on ne s'occupera des pauvres. Là, je fais beaucoup de travail dans la bidonville, dans la zone rurale, où la bonne église, on distribue tous les mois 60 bourses de nourriture pour les pauvres. On fait beaucoup de dans ce champ-là. Mais, comme dit le pape, on s'occupe des corps, mais surtout, on pense de l'âme. C'est la salut des âmes qui nous...
On va mettre un terme à cette entretien. Oui, j'en prie.
Un tout petit message. Il y a un message, Monseigneur, je crois, qui résume énormément de pensées. Et ce message dit, j'aimerais bien parler aussi mal le portugais que Monseigneur Riffand prétend parler mal le français. Merci de votre présence, Monseigneur.
Ah oui, voilà.
Et alors, pour tous ceux qui voudraient parler à Monseigneur Riffand et lui poser des questions directement.
Il y a eu beaucoup de questions.
Parce qu'il y a énormément de questions qui arrivent et je crois que là, il faudrait la deuxième heure et demie de l'émission pour en venir.
Il y en a beaucoup qui se ressemblent.
Mais il y a une grosse pile de papier. Donc moi, je dis à tout le monde que les questions seront libres mardi prochain, à ce premier carrefour apostolique. Donc, 5 rue de la Croix-Nivert, dans le 15e arrondissement à Paris, métro Cambronne, c'est absolument tout près du métro, il y a un parking, enfin il y a tout ce qu'il faut, du point de vue des infrastructures, c'est le Forum de Grenelle, c'est donc une salle, cela commence à 19h30, et Monseigneur parlera à 21h. Mais je crois qu'il vaut mieux arriver un peu tôt.
On va voir la poste.
Voilà,
j'espère.
En tout cas, je crois que ça vaut la peine en plus, parce qu'il y a très longtemps qu'on se pose des questions dans la tradition sur la réalité de Campos. Ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce qui vous a inspiré.
Oui.
Où voulez-vous aller? Qu'avez-vous obtenu? Qu'avez-vous dû concéder? Ça, c'est des questions qui intéressent beaucoup, beaucoup.
Et puis, qu'est-ce que vous avez réalisé en dehors du diocèse? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Monseigneur a fait, enfin, on a parlé un petit peu tout à l'heure, et Monseigneur a réalisé beaucoup de choses aussi, un peu partout, à l'appel d'autres évêques ou à l'appel d'autres
groupes
de fidèles.
À Campos, nous avons bien la liberté, nous avons les paroisses, comme j'ai dit, nous avons une quinzaine de paroisses, nous avons de plus de 150 églises, 30 000 fidèles, 30 prêtres, et nous avons beaucoup de l'orphelinat aussi pour les pauvres. Nous avons 3 orphelinats, 2 exils pour l'adolescent, pour le jeune homme et j'ai une fille. Nous avons aussi un petit hôpital pour les handicapés petits. Et nous avons aussi maison de retraite pour les personnes âgées, 2 maisons de retraite aussi. Et nous avons 15 écoles avec 3000 élèves dans l'administration apostolique. Et nous avons aussi l'assistance aux pauvres. Nous avons la paroisse normale, comme avec tout
À l'évidence, c'est pas une église qui s'endort, l'église de Campos.
Oui, mais après, au dehors des camps, nous avons maintenant 13 diocèses avec la messe traditionnelle, avec ma intercession chez les évêques locaux, le colloque qu'ils ont fait, ils ont permis, et nous avons plusieurs églises avec la messe traditionnelle aussi.
Ben, on ira vous entendre, donc c'est.
Donc mardi 21 février.
Oui.
Ouverture des portes à 19h30. L'abbé Olagnier et moi-même, on parlera un petit peu. Surtout, Monseigneur parle à 21h. Et donc, c'est au métro Cambronne, 5 rue de la Croix-Nivert. Ça s'appelle le Forum de Grenelle.
Merci, monsieur l'abbé, d'avoir
Merci,
pris la peine de venir recevoir dans nos murs Monseigneur. Merci, Monseigneur, d'être venu nous rendre visite. C'est un grand
plaisir. Merci, vous. Que Dieu vous bénisse. Bon travail ici. Et merci à tous les auditeurs. Une bénédiction pour tous.
Merci, Monseigneur. Et alors, je signe. signale que les adresses et les indications d'horaire seront données dans le Libre Journal, dont mon excellent camarade Goffman, qui vient d'arriver, va vous parler aujourd'hui. C'est notre minute de réclame.
Alors, j'ai 3 minutes quand même.
Allez,
pour vous dire que ce numéro 370 que j'ai sous les yeux, certainement très peu d'auditeurs me croiront, mais je me suis relevé cette nuit pour le feuilleter, pour le contempler, tellement... J'en suis content tellement il est beau. Il est beau parce que, je ne sais pas s'il tourne autour du nombre d'or quand même, mais il est très équilibré du point de vue de la maquette, du point de vue visuel. J'ai compté cette nuit, 2 pages sur 3 comportent une illustration ou plusieurs, et c'est très bien qu'une page sur 3... Comme celle du Monde, autrefois, l'intégralité de celle du Monde n'est aucune illustration. Ça fait sérieux, ça montre qu'on fait primer la lecture. Et puis, c'est équilibré d'un point de vue géographique. J'ouvre au hasard un article de Claudine Dupont-Tingo à Quimper. Il y en a un autre de Madame Spiller à Strasbourg. Les signatures... Jean-Gilles Maliarakis, dont les auditeurs ont sans doute entendu parler, nous donne 2 pages très denses sur la mémoire impunie du communisme et l'omission de la persécution antireligieuse. Notre divin marquis, qui est si près de moi à cet instant, assaisonne sa rubrique mondaine, sa chronique mondaine d'informations particulières et privées sur la révolte qui s'amorce dans l'armée espagnole. Les lecteurs sauront pourquoi. On a un reportage très indiscret dans les coulisses du prêt-à-porter qui vient de tenir ses salons à Paris et dans la région parisienne et qui continue la semaine prochaine. On a un éditorial sur les Français Moussaoui. Serge, est-ce que vous avez entendu Zacharias Moussaoui hurler comme un chien enragé devant le tribunal de Washington que non, il n'est pas français, contrairement à ce que tous les médias nous serinent 40 fois par jour, le français Moussaoui, il a dit non, je ne suis pas français, je suis musulman. Ah, apparemment, ce n'est pas la même chose. Et on consacre encore 3 pages à l'islam de tolérance, à faire son portrait à Londres, à ailleurs, ses menaces, les menaces qu'il fait peser. Bon, il y a 24 pages que je ne peux pas toutes énumérer. Je peux simplement dire aux auditeurs que pour feuilleter gratuitement la collection presque entière du Libre Journal, c'est Internet. http://.
www.transcourtoise.info.
Et puis ils peuvent venir aussi le 21 là, puisque je pense que vous aurez une petite table pour rencontrer les
j'en prends bonne note. Et eh ben oui,
donc
nous
voilà,
y serons
au forum de Grenelle.
Donc gratuitement sur Internet, c'est francecourtoise en un seul mot .info. Pour se procurer ce numéro 370, c'est 5 € ou un carnet de timbre.
Un carnet de timbre, par pitié, envoyez-nous un carnet de timbre, parce que les chèques de 5 €, ça représente un boulot. Mais c'est phénoménal pour.
Et on n'a pas le droit de demander des billets de 5 € dans des enveloppes, non, bien sûr. Donc
ça,
on les demande pas.
Que les postiers.
Voilà. 110 € pour s'abonner 1 an. C'est un décadaire 3 fois par mois. À l'ordre de SDB, 4 place France Liszt, 75 010, Paris.
Merci mon cher Patrick. Maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cette émission qui est enregistrée, je le rappelle, donc vous ne pourrez pas téléphoner, mais si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par fax et je les transmettrai en personne à Dominique Hérulin qui, je le sais, se fera un plaisir et un devoir de vous répondre depuis le Paraguay où il exerce le métier magnifique de colonel de parachutiste. Colonel paraguayen, c'est un de pas quoi, et pourtant, pour un officier français, c'est quand même une belle destinée. Et c'est un personnage, vous allez voir, tout à fait extraordinaire dans tous les sens du mot. Vous voulez dire quelque chose?
Je suis vraiment un ahuri, oui. Parce que sur l'affaire des caricatures de Mahomet, un petit teasing... On a fait mieux, on dépasse la chose à la une. Rien que pour ça, il faut commander ce numéro. 5 € un carnet de timbre, 4 places France Liszt, 75 010, Paris.
Merci Patrick de ce rappel, j'étais très fier. Vous voulez dire quelque chose?
Je voudrais que vous répondiez à une question d'auditeur. Vous associez-vous à la Révolution bleue? Je connais la réponse.
Mais et moi, je m'associe à la Révolution, je l'ai dit, à la Révolution Lustucruche.
Il a une écharpe rouge autour du cou, Serge, il faut le dire, ceux qui n'ont pas la radio en couleur.
C'est parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une bleue en ce moment, mais c'est la Révolution Lustucruche, la Révolution des damiers de la police parisienne de la circulation. Vive la révolution contre les contraventions, le stationnement interdit, la circulation impossible dans Paris. Voilà.
Vive la révolution nationale.
Vive la révolution nationale. Merci Patrick. Merci Monseigneur encore une fois. Merci Monsieur l'abbé de Tannouard. Et à mardi prochain à Grenelle.
À mardi.
pour la réunion que vous organisez. Bonne semaine, que Dieu nous garde. Dominique Rulin, bonsoir. Alors, c'est la deuxième fois que vous venez à ce micro, enfin dans mon émission. La première fois, c'était pour présenter un livre au titre intrigant, c'était « Gibier d'État », qui est paru chez Albin Michel. La deuxième fois, vous venez aujourd'hui pour présenter un livre que vous venez de publier, qui s'appelle « La Grande Piste », qui est publié aux éditions de La Reconquête. L'autre, c'est le premier, c'était chez Albin Michel. Et quand on vous demande votre profession pour remplir les fiches de Radio Courtoisie, vous répondez « Aventurier ». Alors, la première chose que je voudrais faire, si vous permettez, c'est, je sais que c'est jamais agréable d'être référencé par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on a l'impression qu'on n'existe qu'à travers lui, mais c'est pour situer un peu qui vous êtes, enfin, dans quel milieu vous avez évolué. Vous êtes le frère du colonel Urulin, hein, qui était un des très grands officiers de Légion étrangère, une grande figure de la Légion étrangère, et qui a fait l'opération de Colvézi, qui a dirigé l'opération de Colvézi, qu'on appelait Soleil, et qui est mort dans des conditions étranges, puisque cet homme qui pétait littéralement de santé, qui était un colosse comme vous d'ailleurs, et qui était très entraîné, est mort à la suite d'un jogging, ce qui paraît ahurissant quand on connaît un peu l'entraînement quotidien des officiers, sous-officiers et hommes de la Légion. Il a plané des doutes sur les conditions de cette mort, surtout qu'elle intervenait après la disparition de la quasi-totalité des hommes qui avaient participé à l'opération de Colvézi, puisqu'il y a toute une section qui a disparu dans un accident d'avion inexplicable, lui aussi, à Djibouti. Enfin, c'est une histoire pleine de mystères. Et il semblerait d'ailleurs que il y ait sur votre famille, c'est pas une malédiction, mais une espèce de force ténébreuse qui se bat contre ce que vous représentez et contre laquelle vous vous battez aussi avec une énergie qui vraiment stupéfie les gens qui lisent votre livre, qui ont lu le premier et qui liront le deuxième. Et le premier livre s'appelait Gibier d'État parce que vous avez été un gibier d'État dans des circonstances tout à fait extraordinaires, comme d'ailleurs la quasi-totalité de votre existence, puisque vous avez été considéré comme l'ennemi public numéro un, l'homme qui voulait tuer Mitterrand, et vous avez été traqué par la cellule élyséenne, très brillant sujet de la cellule élyséenne, notamment qui sont les auteurs des écoutes clandestines. Vous avez été traqué à tel point que vous avez été obligé de partir en Amérique du Sud, parce qu'il y avait sur votre tête un contrat. C'est-à-dire que là, les questions de justice, il ne s'agissait pas de vous amener dans un tribunal, il s'agissait de vous abattre comme une bête féroce. Voilà, j'ai situé un peu qui vous êtes, mais enfin, dans quel contexte vous vous trouvez aujourd'hui. C'est un peu la raison pour laquelle je vous invite, parce que on n'a finalement pas tellement de raisons d'inviter tous les auteurs de livres qui racontent leur vie, mais vous, votre vie est d'abord très particulière, et ensuite, vous avez été en contact avec énormément de gens qui sont des gens qui comptent dans la vie française aujourd'hui, la vie politique, la vie militante. Et ce qui est intéressant dans votre livre, quand on le lit, c'est qu'on voit à quel point les racines sont là et les racines parlent. Alors moi j'ai parlé beaucoup aussi, maintenant je vais vous laisser la parole pour corriger éventuellement les bêtises que j'ai dites ou compléter les lacunes.
Non, je ne vais pas vous interrompre, c'est un monologue intéressant, mais de toute façon, oui, il y a du vrai dans une sorte de malédiction, on dirait, en fait, dans ma famille, de famille militaire depuis des générations, on a toujours été de brillants soldat et stratège, et en fait, par un étrange hasard, mon grand-père, mon père, mon frère sont tous morts avec le grade quasi mythique de colonel. Et donc je disais à mon frère, tu seras le premier général de la famille, apparemment c'était pas du tout prévu. Moi évidemment, j'ai une famille de héros, j'étais le petit, donc le petit dernier, on est toujours à essayer de se faire de se faire reconnaître, bien sûr. Donc, j'ai été dans les parachutistes en Algérie, moi aussi, mais c'est pas pareil. Je suis le petit dernier. Donc, de toute façon, moi, avec, disons, les turbulences du putsch et la fin de l'Algérie, j'étais vraiment viré de l'armée avec perte et fracas et sorti, disons, du cadre des choses classiques qui, peu à peu, ont fait que je me suis spécialisé que dans des choses hors du commun. Et bon, d'où le titre aventurier, si l'on veut, quoi, puisque c'est pas des choses qui vous donnent une retraite confortable, ni des titres
à une gloire particulière ou une reconnaissance mondaine particulière. Oui, mais quand on lit votre vie et votre livre, on entend et on voit crépiter les signes. Par exemple, quand vous étiez tout petit garçon, tout gamin, dans la famille, comme dans beaucoup de familles où il y a beaucoup d'enfants, on donne des surnoms à tous les enfants. Et vous, votre surnom, c'était Marcassin.
Marcassin Noir.
Et ce qui est très drôle, c'est que quand on vous a donné ce surnom, on pouvait pas imaginer que 50 ans plus tard, vous seriez un sanglier noir. Parce que vous avez été une espèce de sanglier dans la vie. C'est-à-dire, même physiquement d'ailleurs, je me souviens, il y a quand même quelques années qu'on se connaît maintenant, et je me souviens que quand vous étiez plus jeune, vous aviez le même physique, et je ne sais pas si vous le savez, mais on vous surnommait Brutus.
Si.
Par référence au personnage de Popeye, auquel vous avez un peu de ressemblance, je dirais. Au personnage qui est l'adversaire de Popeye. Et vous irradiez une espèce de force physique, une espèce de violence retenue comme ça tout le temps, qui nous frappait beaucoup quand on était jeunes militants. On était en admiration et en même temps on était toujours un peu inquiet parce qu'on se disait il y a une grenade dégoupillée dans le coin, il faut savoir à quel moment elle va péter. Et donc ça c'est le premier signe, ce surnom d'enfant. Est-ce que c'est un signe ou est-ce que ça vous a en quelque sorte poussé à avoir une certaine attitude dans la vie?
Je ne sais pas, à vrai dire. J'ai suivi plutôt le vent, puisque en fait j'étais comme mon père nous appelait avec un de mes frères les Ostrogoths quand il était au moment de l'Indochine à cause de notre caractère turbulent, et on nous avait mis donc chez les bons curés comme pensionnaires, et moi je ruais dans les brancards complètement. J'aime pas qu'on me dirige. On m'avait eu beau me dire qu'avant de se commander il faut savoir obéir, j'ai toujours été une espèce de corsaire, quelqu'un qui rêvait que de mener sa barque. En fait, à force de le faire, effectivement, je n'ai eu plus qu'à ramer tout seul.
Oui, mais ça, c'est situation de, il faut, avant de commander, il faut savoir obéir. C'est un peu un piège, parce que en même temps qu'on raconte ça aux enfants, moi j'ai entendu ça aussi mille fois dans ma vie, mais quand on nous enseigne la vie des grands hommes, on nous montre par exemple Napoléon, et qu'est-ce qu'on dit de Napoléon? Ben Napoléon à Brienne, il commandait ses copains de classe dans les batailles de Boule de Neige. Ça fait partie de la légende dorée des grands hommes. Donc il n'avait pas obéi avant de commander, il était un chef naturel. Et en réalité, je crois que la vérité, c'est qu'il y a des gens qui sont des chefs naturels, il y a des gens qui sont des exécutants naturels, il y a des gens qui sont des adjoints naturels, il y a des gens qui naissent adjudants. Je crois qu'on est adjudant, c'est une fonction parfaitement respectable, qui est différente de celle de colonel, et vous avez des gens qui restent lieutenants toute leur vie. C'est pour ça que l'armée est une chose assez intéressante sur le plan de l'étude sociologique.
Effectivement, bien que on ait une armée maintenant de fonctionnaires.
Je parle de l'armée de soldats, je parle pas de l'armée des gros culs qu'on a aujourd'hui, parce que là, on sort de l'épure. Mais alors, pour en revenir à cette enfance, il y a aussi quelque chose de très classique dans nos milieux, c'est ce que j'appellerais la très lourde présence du père par absence ou par défaut. C'est-à-dire que vous avez un père qui est tout le temps qui est un soldat, qui se bat, qui est un combattant, un guerrier. Il fait partie je sais pas si on fait partie des maréchaux de l'âtre, mais
la fin de sa vie.
À la fin de sa vie. Hein.
Oui.
Et c'est un homme de terrain, c'est un vrai guerrier. C'est pas un officier d'état-major, c'est un vrai guerrier. Il est blessé, je sais pas combien de fois, gravement. Il retourne au feu à chaque fois. Il continue à commander sous la mitraille alors qu'il est grièvement blessé. Et puis de temps en temps, il apparaît dans la famille où il revient en perme. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il corrige. Hein, c'est-à-dire que pratiquement l'impression qu'on a, c'est qu'un père, le père est là uniquement pour vous mettre en ligne, alors que votre mère est apparemment pas non plus une sœur de la charité. Hein, c'est on a l'impression que c'est une femme raide, dure, exigeante. Et l'impression qu'on tire de cette lecture, c'est que vous avez vécu dans un milieu extrêmement dur, sévère, contraignant, et que vous aviez, vous, un caractère de rebelle, et donc ça pouvait provoquer que des étincelles.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais en fait, si j'ai écrit, la grande piste, c'est qu'en fait, en me retournant, je vois qu'il est de plus en plus difficile de remettre en ordre tout ce long chemin parcouru, mais tout à fait au départ, effectivement, c'est des choses qu'on n'entendra plus aujourd'hui, ce genre d'éducation.
C'est ce que je pensais aussi. Oui. J'allais vous dire, c'est un livre extrêmement intéressant à lire, surtout, enfin, pour les adultes, bien sûr, mais pour les adolescents, c'est un livre dur, hein, c'est pas un roman d'aventure amusant, c'est un livre très dur, mais je crois que vous avez 68 ans, hein, donc
oui, je vais avoir 69.
Alors je précise quand même, une fois que j'ai dit que vous avez 68 ans, que l'année dernière vous avez été vice-champion du monde de taekwondo.
Oui, oui, un dernier défi.
Donc, je veux dire que c'est pas un vieillard podagre. Faut pas tirer du fait que vous avez 68 ans la conclusion que vous êtes dans le même état que moi, qui a 18 ans de moins. Mais ce qu'on voit en lisant votre livre, c'est à quel point, et c'est ce que je voulais dire aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes gens qui pourraient le lire, aux jeunes filles d'ailleurs, à quel point en une génération et demie, il y a eu un bouleversement total des modes d'éducation, des modes d'existence, des comportements, des exigences, des interdits. Parce que aujourd'hui, des parents qui essaieraient d'élever leur fils comme vous, vous avez été élevé, ils seraient dénoncés à la DDS, vous seriez pris en charge par une institution quelconque, on vous collerait trois cellules de soutien psychologique autour pour essayer de vous racheter, quoi. Enfin,
et ça montre comment les pauvres gosses d'aujourd'hui sont incapables de pouvoir se mettre des repères entre le permis et le non-permis. Mmh. Puisque de toute façon, maintenant, on en est, si quelqu'un prend une claque, il faut qu'il pleure, qu'il aille porter plainte, alors qu'il sait très bien qu'il l'a mérité. Et le cri horrifié, comment oser frapper un enfant, en fait, on frappe pas un enfant pour le tuer, on frappe un enfant pour le corriger éventuellement. Et ça, c'est des choses, ce sont des blasphèmes actuellement. En fait, je voulais quand même y laisser un témoignage, parce que c'est que chez les bons pères, on était pareil, hein, on se levait à 5h, il fallait casser la glace pratiquement pour se laver, on allait à la messe, servait la messe, avait le fouet.
Vous avez été enfant de cœur.
Exactement, j'étais même un super enfant de cœur, il me trouvait tellement bien qu'il voulait absolument me mettre au petit séminaire. Ma mère trouvait ça une bonne idée, d'ailleurs, d'avoir un prêtre dans la famille.
Ça peut aider après, hein. C'est quand même quelqu'un qui vous pousse, qui vous tire. Et en même temps, je pense qu'il y a eu des prêtres de votre gabarit. Hein.
Sûrement.
Je pense au père Revet, dans un autre ordre d'idées, mais qui était physiquement aussi un colosse, et puis qui était un homme qui avait un idéal, qui est allé au bout de son idéal.
Donc, oui, il est évident qu'il y a même dans les du côté des missionnaires, présume qu'il y avait des choses très intéressantes à voir. Et même récemment, il y a quelques années, en Amérique du Sud, j'avais connu des curés à soutane. C'est rare encore. Des Français, il y en avait un qui était de mon ancien régiment de parachutistes, et puis il y en avait un surtout qui m'avait frappé, il s'appelait le Père Tam, que j'avais retrouvé par hasard vers Saint-Nicolas du Chardonnay à la tête d'une procession, c'est la dernière fois.
C'est typiquement un nom de soldat curé.
Absolument, oui. Et en fait, il vous aidait quand même à penser qu'on n'était pas totalement ridicule, parce qu'effectivement, par formation, bon, j'avais appris le latin, le grec, toutes les choses utiles, comme chacun sait, pour l'avenir. Et donc, il me restait quand même, quand j'allais à la messe, n'importe où, on parlait latin, on se sentait dans une communauté. Mais maintenant, il faut jouer de la guitare, du tambour, parler n'importe quelle langue. Enfin, j'en parle plusieurs, heureusement. Mais on se sent pas du tout attiré, disons, par une communauté de... par la communauté à laquelle on est censé appartenir.
Quand, je sais pas, comment avez-vous pris la décision? Est-ce que vous avez pris la décision un jour de devenir parachutiste? Ou est-ce que ça faisait partie du cursus quasi obligatoire?
Eh ben, il est évident, j'ai pris la décision, en fait, moi je vivais évidemment toujours, nous on est des enfants de la guerre, on va dire, donc le bataillon du ciel, c'était un ouvrage qui m'avait frappé complètement. Ensuite, tous les paras d'Indochine, moi je voulais absolument voir ce que... L'idée de sauter ne m'enchantait pas spécialement, mais enfin j'ai voulu voir mes mesures. Et en fait, donc j'ai commencé à sauter en septembre 56 sur un vieux Junker de l'armée allemande à Orléans. Et ma foi, le premier saut était dans
l'avantage du ciel. On était content de sortir. Hein.
Oui, à quatre pattes d'ailleurs. Je me demandais comment les gens pouvaient passer par une porte aussi petite. Mais en fait, c'était le début. J'ai maintenant 8500 sauts. Hein, et je n'ai pas pu me consacrer comme j'aurais voulu, même à être toujours dans les avions. Mais j'y passe encore pas mal de temps. Et
vous sautez toujours.
Oui, ça me gêne un peu d'ailleurs d'être un type qui n'est pas à sa place au milieu de tous ces jeunes qui me regardent comme un peu comme un monstre quand même, puisque j'étais champion du monde en 68 en parachutisme, j'étais dans l'avance de toutes les grandes formations de vol relatif. Maintenant, donc, vous arrivez là, il y a beaucoup de jeunes loups, de jeunes coqs, de jeunes trucs, et d'un seul coup vous êtes là, vous êtes dérangeant, on peut pas raconter des coups, vous avez tout fait déjà et tout, vous gênez. C'est très bizarre comme situation.
Donc vous vous retrouvez, non pas officier, mais parachutiste en Algérie alors.
Absolument.
Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment ça se passe pour vous, l'Algérie? Vous êtes tout jeune, vous n'avez pas d'attache particulière avec l'Algérie?
Absolument. Et il faut que je revienne un peu en arrière, parce que c'était quand même une coupure. Moi, je préparais Saint-Cyr avec beaucoup d'obstacles. Enfin, je n'étais pas vraiment puisque je courais en plus la nuit pour aller me rosser les cocos avec tout un tas d'honnêtes citoyens qui ont fait des grandes carrières. Et j'ai vu, il s'est trouvé qu'en 58, après les événements de mai 58, on m'a offert de partir en Algérie dans les SAS, les sections administratives spécialisées, qui étaient en principe un stage de 3 mois. Pour des étudiants qui voulaient se rendre compte de la réalité des événements d'Algérie. Donc je m'étais porté volontaire et je débarquais comme ça à la frontière tunisienne dans ce pays que je ne savais pas. Je savais pas ce qu'il était. J'ai trouvé formidable. J'ai vécu 3 mois qui se sont transformés en 6 mois d'ailleurs, à la tête d'une harka, d'un truc, et croyez-moi que ça pétait beaucoup dans le coin. Et en fait, disons que les études avaient terminé pour moi, j'avais plus envie du tout de continuer. Donc, au bout de 6 mois, évidemment, je posais des tas de problèmes à l'administration, donc je suis retourné, puisque je voulais être para, et non pas attaché aux affaires algériennes comme on m'a offert. Et donc, l'administration m'a toujours fait horreur. Et donc, je suis rentré, et je me suis engagé, donc, au para. Je voulais rejoindre mon frère aîné, le futur colonel Philippe Perrulin, au premier CP où il était à l'époque, mais on m'a viré immédiatement à la GIB POM, c'est-à-dire parachutistes d'outre-mer, d'infanterie de marine, comme on pouvait plus dire, paracolonial, ça c'était devenu...
C'était déjà interdit à l'époque.
Ah, ça c'était maintenant transformé en RPIMA, régiment parachutiste d'infanterie de marine. Donc je suis retourné en Algérie comme para, ce que je voulais, mais entre-temps on m'avait quand même mis à la section officier, où j'avais tous les droits, puisque j'avais ma PMS et tout, en dehors du fait d'être une dynastie militaire, et j'étais le premier donc de ma section, on va dire, de l'époque. Et puis est venu un message à la sécurité militaire qui m'a fait virer en disant qu'il y avait un dossier me concernant. En fait, personne n'a jamais rien compris. Toutes les interventions étaient ont été inutiles et on voulait bien que je continue à rester à mon stage chef de section, mais il fallait que je renonce au para et de retourner en Algérie. Alors évidemment, je trouvais ça une mauvaise plaisanterie et j'ai refusé. Donc je me suis retrouvé comme sous-officier à l'entraînement des stages commando à Bayonne et impossible de partir en Algérie, on voulait pas. Et on voulait m'envoyer en Afrique noire, j'ai même pris toutes les vaccinations et puis heureusement le hasard, un espèce d'ancien Indochine, un horrible gorille qui est arrivé à la citadelle à Bayonne et m'a pris en grippe. Et il m'a dit un jour, j'aime pas les planqués, je vais vous faire muter, moi, en Algérie. Moi, je cachais ma joie, bon sang. Et le plus fort, c'est qu'il m'a fait inscrire. Et j'osais pas manifester aucune émotion, parce que je voulais surtout pas qu'ils s'aperçoivent qu'il me comblait toute ma joie. Donc, je suis parti en Algérie, j'y suis resté jusqu'après le putsch, et bien après, enfin, tout ça, ça apparaît dans le livre. Donc, ceux qui voudront lire tous ces moments c'était un petit peu tôt, un peu croc-court pour une émission.
Oui, c'est sûr. Il faut lire ce livre qui est tout à fait passionnant, mais qui est d'autant plus passionnant que il m'a fait penser à un personnage qui avait écrit ses mémoires aussi, qu'il avait intitulé Le Clou Tordu. Parce que c'est un personnage, plus on tapait dessus, plus se tordait, mais il n'y avait rien à faire. On ne l'avait pas dans la direction qu'on espérait. Et il y a vraiment chez vous cette espèce de notion de la présence constante d'un mauvais sort, mais une espèce de résistance des événements à ce que vous avez décidé de faire. Et on a l'impression que, vous avez un choix au départ qui est le choix de beaucoup de jeunes gens, un choix tout naturel de combattre de défendre son pays, de porter l'uniforme, etc. Et que tout semble fait, sans raison, pour vous pousser à faire des conneries. Pour vous pousser à sortir de la ligne, à devenir un marginal, un personnage qui sur lequel on va faire des rapports négatifs, alors que c'est incroyable, puisque dans l'armée, par exemple, il y a cette tradition des dynasties militaires. Et étant donné le grand-père que vous aviez, le père que vous aviez, normalement, vous auriez dû être considéré comme une valeur sûre pour l'armée.
Absolument.
Et on se dit, la seule explication, c'est qu'à ce moment-là, c'est-à-dire 58, c'est la période de Gaulle, le début de la période de Gaulle en tant que chef d'État, on a l'impression que les choses sont en train de basculer. C'est-à-dire que ce qui était bien avant, d'un seul coup, devient mal. Mm-hmm. Être patriote, c'est mal. Être nationaliste, c'est mal.
Pupille de la nation.
Pupille de la nation, c'est dégueulasse. Et alors, on se dit, mais enfin, qu'est-ce que... On voit là presque, à travers votre livre, à quel moment les choses commencent à marcher de travers. Alors on dit généralement 68, mais 68 c'est la concrétisation.
Oui.
D'ailleurs, curieusement, votre livre se termine en 68, le premier tome.
Effectivement, curieusement, parce que moi, 68, qui a, fait tant de grabuge en France, je ne l'ai pas vécu. Je me trouvais à l'époque blessé aux États-Unis, dans un coup fourré avec les bérets américains, puisque j'étais parti après la campagne Tixier, un petit peu houleuse. Et quelques débuts en cinéma, donc j'ai réussi à partir pour un contrat sur les États-Unis pour 2 ans, comme cascadeur. Et donc là-bas, je m'étais très très bien débrouillé, et c'est là d'ailleurs que je suis devenu champion du monde d'ailleurs avec les para-américains de première ligne, donc en 68. Mais juste avant, au moment de mai 68, j'avais été faire un petit séjour au Vietnam pour essayer de filmer un peu les opérations sur l'invitation des forces spéciales américaines. Et lors d'un saut d'entraînement, à peine arrivé sur Saigon, alors qu'on devait en principe, alors qu'il y avait tous les hélicos, mais on avait promis d'arriver en parachute, je me suis pris une ligne téléphonique à ras du sol. Je me suis cassé complètement. C'était une de mes premières grandes fractures qui fait que je haïssais tout le monde et que je m'étais aperçu bêtement que j'étais humain à l'époque où je pensais être au-dessus de tout ça.
Ça aussi, d'ailleurs, vous avez un frère qui était pilote, qui a eu un accident d'avion.
Absolument.
pardon, à l'atterrissage. Mmh. Épouvantable. Il en a fait, été littéralement broyé.
Non, en fait, c'était même pas à, la, à l'atterrissage, c'était en exercice en rase-motte, la taxol. Et en fait, le lazingue, donc il n'en restait qu'un mètre de fuselage, oui. Et lui a, et il a survécu. Il a, si, a survécu.
Il en est sorti par ses propres moyens, d'ailleurs.
En, non, en fait, il était dans le coma. Hein,
mais après,
en fait.
Il est tombé dans le coma.
Ah oui. Mais il est resté plus d'un mois dans le coma, avec des complications terribles, dont un abcès à la carotide. Moi, je vous signale, j'étais boy scout à l'époque, on m'avait viré manu militari de l'hôpital, parce que je voulais frapper tous les infirmiers qui ne faisaient pas leur truc assez bien. Et donc, je me rappelle, je descendais à la Vézère à la Corrèze en canot pneumatique, ce camp-là, je ne savais pas si mon frère était mort ou vivant. Et en fait, il a survécu. Et en plus, il a repris, il était redevenu, il récupérait tellement qu'il avait repassé tous les tests sans avoir aucun problème. Seulement, il avait une interdiction de piloter à vie, et c'était, donc pour lui, la vie militaire était terminée aussi.
Elle n'a jamais été rapportée, cette interdiction de vol.
Non. Bon, c'est un peu normal. Si vous vous rendez compte, vous avez fait plus d'un mois, un mois et demi dans le coma avec des tas de trucs. Vous imaginez, par exemple, que vous ayez un accident de pilotant un avion et que vous tuiez pas mal de personnes. Ça risquerait de faire un vrai scandale. Mais sa vie qui était de voler a été... lui aussi, il a eu un tournant, donc il est parti dans les pétroles. C'était devenu un géologue sur les frontières de la Libye. Enfin, il travaillait à... être gelé, enfin, dans tous ces coins-là.
Alors, si on résume, votre père, blessé, je sais pas combien de fois.
Oui.
Enfin, c'était pratiquement, j'étais haché menu, quoi.
Ah oui.
Votre frère,
Philippe a été blessé, a été blessé gravement, très gravement en Algérie d'ailleurs. Il a été, c'est un miracle qu'il ait survécu. Il avait des cicatrices épouvantables. Mon autre frère, effectivement, avait d'énormes cicatrices aussi. Et moi, j'étais en principe celui qui se cassait quelques petits os de temps en temps, mais ma mère disait la mauvaise herbe. Ça
oui, toujours... ça c'est curieux d'ailleurs, parce que il y a même une phrase terrible, c'est que je crois que quand votre frère a son accident d'avion, elle a une réaction qui vous laisse penser que ben, aurait préféré que ce soit vous qui restiez.
Bon, ce serait plutôt pour Philippe, mon frère aîné, sur qui elle avait reporté un peu toutes les responsabilités de la famille quand même. Je me rappelle quand elle est venue, c'est un truc absolument bizarre, j'ai failli me tuer au championnat du monde de Del Delta, quelques semaines avant que mon frère meure. Donc lui me soutenait, me téléphonait tout le temps à l'hôpital de Grenoble où j'étais, et donc je suis sorti de l'hôpital et on devait dîner ce jour-là où ma sœur me téléphone pour me dire entre les larmes, Philippe est mort. Alors je sors sur des béquilles, j'étais à Bégin, je sors pour aller au Val-de-Grâce et là je me rappelle, ça m'a frappé, on m'a interdit d'entrer d'abord, il y a des gens qui avaient l'air... Des gens louches, il y a des gens qui avaient l'air contents. D'autres, on m'a dit oui, c'est bien sûr, on m'a dit putain, ils étaient venus pour s'assurer qu'ils étaient vraiment morts. Et bon.
Je me souviens de cette époque, je me souviens de vous avec les béquilles d'ailleurs, ça nous avait, enfin moi ça m'avait frappé parce que c'était tellement, à la fois tellement naturel de vous voir avec des béquilles et tellement extraordinaire de vous voir diminuer physiquement que c'est une image qui m'est restée. Je me souviens parfaitement de ces béquilles qui paraissaient incongrues. Et puis parce que aussi la peine de la mort du colonel pour des jeunes des jeunes gens qui avaient milité ou qui avaient la passion de la Légion, de l'armée et tout, c'était une perte. On a éprouvé comme la perte d'un frère, de quelqu'un qu'on aimait profondément. En plus, j'avais beaucoup de copains qui ont sorti à Colvézi qui me dit qu'il l'aimait comme un... Enfin, qu'il l'idolâtrait littéralement. C'était un chef adoré.
Absolument. Il y avait un petit peu... Avant, on me demandait si mon frère était lui. Et après Colvézi, on lui demandait si j'étais son frère. Enfin, il y a des transferts de notoriété.
De notoriété. Alors on est sur Radio Courtoisie, je reçois Dominique Hérulin pour son livre La Grande Piste.
Premier tome 1.
Le tome 1, et puisque ce sont des mémoires, et j'espère qu'il y en aura encore 5 ou 6 des tomes pour que nous racontiez, le deuxième tome va être, je suppose, la période que vous avez déjà évoquée dans, dans Gibier d'État.
Oui, on va la rejoindre, oui, bien sûr.
Alors, donc vous êtes, là on en est à la période algérienne, et vous nous disiez tout à l'heure que quand vous prépariez Saint-Cyr, vous posiez en quelque sorte le mur, c'est une façon de parler, pour militer donc dans les équipes TV. Et c'est là que vous avez fait la connaissance de Le Pen.
Oui, en fait, je l'ai connu, ça paraît, c'est toujours, en 56, il y a eu plusieurs éléments, donc j'ai sauté en parachute pour la première fois, et il y a eu Budapest, il y avait l'expédition de Suez.
Et puis il y a eu la fameuse affaire du Carrefour Co-Sud.
Absolument.
Ah, ça, vous racontez ça, alors le Carrefour Co-Sud, c'est l'attaque des locaux du Parti communiste.
Là, le Parti communiste,
c'est extraordinaire.
Ils ont eu vraiment chaud aussi. Cette nuit-là.
Mais ça, on raconte pas parce qu'il faut vraiment le lire.
Oui.
Et vous avez failli, vous avez frisé l'exploit.
Hein. Oui, oui, en fait, c'était des réactions pures, on va dire, contre la, sans vraiment réfléchir plus loin, qu'on aurait pu déclencher éventuellement un espèce de drame national.
Ah, j'ai un souvenir de ça. Il se trouve que ce jour-là, j'étais à cet endroit parce que ma grand-mère habitait à Porte de Choisy, nous on habitait Nanterre, donc on prenait le train pour aller jusqu'à Saint-Lazare, puis à Saint-Lazare on prenait le métro pour aller à Porte de Choisy. Et donc comme ma mère croyait que j'étais chez ma grand-mère, et ma grand-mère croyait que j'étais chez ma mère, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, très peu. Enfin, j'étais tranquille, donc je faisais le mur, et je savais qu'il allait se passer des choses,
on en avait parlé.
Donc j'étais allé, et j'ai assisté de loin dans la rue, parce que j'étais gosse, j'avais 10 ans,
j'avais
pas participé.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'on
aux affrontements.
Une telle différence.
Et j'ai des souvenirs, et je vois encore ce que vous racontez, les gars jetant par les fenêtres tout ce qui leur tombait sous la main, les chaises, les machines à écrire.
Ça, on les aurait lynchés complets, là, ça c'est sûr.
C'était vraiment un épisode de prise de château fort. Ça donnait cette impression.
Absolument.
Avec des cris, des bruits. C'était très, très impressionnant pour un gosse.
Et donc, j'avais récolté mon premier pavé sur la tête. Ouais. C'était le nombre d'une nombreuse série. Mais en fait, disons que 56, donc c'est juste là, dans la foulée, que j'ai rencontré Jean-Marie, en béret vert, uniforme, rentrant député, le plus jeune député de France. Ouais. Et disons que ça a été le coup de foudre immédiat.
Ouais.
Et je l'ai toujours suivi, même avec de loin. Hein, donc ce qui explique peut-être ma fidélité inconditionnelle, puisque je n'ai jamais eu à profiter de quoi que ce soit de sa part. J'ai toujours remarqué que les Brutus actuels sont tous prêts, je ne me rappelle pas moi, hein,
les fils indignes,
dès qu'ils sont combés d'honneur, ont l'air de vouloir se sentir plus grand que le maître. Donc, personne n'est parfait, mais quelqu'un a le mérite d'exister. Je pense que c'est lui encore.
Et comment vous voyez à l'époque Tixier ?
Eh ben Tixier, effectivement, pour moi c'était un avocat qu'on me disait de talent. Bon, j'oublie de mes souvenirs de gamin. Je l'ai revu moi quand on m'a dit pour la campagne Tixier, comme il avait moi j'avais pleuré quand. L'OS s'était désagrégé et donc il avait sauvé Salan. Il y avait toujours les mauvaises langues pour dire qu'il avait oublié de déposer le recours en grâce du chef des commandos Delta de Gueule. C'était une boucherie épouvantable, sa mort. Mais de toute façon, Tixier, moi je l'avais.
C'est-à-dire que de Gaulle était immortel.
Il était immortel.
C'est vraiment. Ouais. Il aurait pu faire partie de la fratrie.
Absolument.
Il a été tué dans des circonstances, c'est vrai, absolument atroces.
Ouais.
Et ce qui est terrible, c'est que 20 ans après sa mort, Ils ont essayé de le tuer une deuxième fois en faisant courir sur lui le bruit qu'il avait été dans la SS ou je ne sais quoi, je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher pour salir sa mémoire, mais d'une façon d'abord ridicule parce que je ne vois pas en quoi ça pouvait porter atteinte à ce qu'il était.
Absolument.
Mais c'était quand même un ancien combattant de la résistance et quand on disait qu'il avait été du côté des Allemands, c'était tout simplement traité de traître.
Oui, oui. Non, mais vous avez raison. Mais vous voyez, même mon père, qui était un des grands pontes de l'ORA, l'armée, l'organisation de la résistance de l'armée. Donc, c'était pas spécialement gaulliste, ceux-là, puisqu'ils étaient en principe légalistes, ça devait être avec Giraud. Mais, et qui commandait la résistance au Massif central, avant de rejoindre justement la première armée de Delattre, mais pas pour faire de l'épuration, mais pour aller vraiment libérer. De toute façon, lui avait un profond respect pour nos adversaires, qui lui considéraient, je me rappelle quand même qu'il avait parlé de Rommel comme étant quelqu'un de semblable. Bon, mais la chose est que... Attendez, je suis en train de...
On parlait de guerre.
Oui, alors de toute façon, moi, je me rappelle des communistes comme j'en rencontrais au Quartier Latin, et ils essayaient de... Quand quelqu'un disait, mais c'est le fils du colonel Runin, là, le maréchal, l'un des maréchaux de Delattre et tout. Oui, mais il était à la LVF. Alors moi, je savais pas ce que c'était la LVF, à vrai dire. Alors on me disait, c'est vrai que ton père était à la LVF. Je dis, je sais pas, qu'est-ce que c'est la LVF. J'étais pas quand même... Après, je découvre, quoi, on cherchait toujours à vous catégorifier étant quelqu'un qui avait hésité sur son pays.
Je pensais à ça ce matin en écoutant parler Buffet, qui parlait de l'engagement passé de certaines personnes de la droite nationale et d'autres. Je me disais, c'est quand même extraordinaire, ces gens qui ont été les complices du régime de terreur le plus immonde que la Terre ait connu, le régime marxiste, le régime bolchevique, et qui aujourd'hui sont considérés comme des gens parfaitement fréquentables, à qui on peut parler, elle parlait de démocratie en plus. Enfin, je veux dire, entendre ce mot qui est déjà répugnant dans la bouche de cette bonne femme, c'est à vomir littéralement. Et en plus, pour accuser Le Pen en l'occurrence, de ne pas être démocrate. Alors que Le Pen, justement, moi si j'ai un reproche à lui faire, c'est d'être démocrate, c'est parce que il a toujours voulu participer à tous les débats républicains, à tous les débats démocratiques, par les voies démocratiques, en présentant des candidats. Bon. Et d'entendre cette racaille, eh bien, 50 ans plus tard, c'est toujours la même chose, toujours le même discours, et on a l'impression qu'on reviendra, on pourra jamais arriver à détruire ce mensonge formidable.
Le jour d'aujourd'hui, puisqu'on l'aborde, moi je suis absolument, je n'habite plus en France, heureusement. Je m'y reconnais pas. J'en arrivais en 96 quand j'étais revenu pour la mort de Mitterrand et être lavé de tout soupçon en principe, car comme m'a dit un haut ponte, l'ancien directeur d'Interpol, comment il s'appelle celui-là encore. Préfet, ils sont superbes en tous ces noms. Bon, Barbeau.
Ah, Barbeau.
Et il m'a dit, on a failli vous avoir plusieurs fois. Puis il m'a dit, vous savez, Monsieur Runin, il y a encore en France deux écoles. Il y en a une qui prétend qu'on vous a poursuivi de manière intolérable, mais il y en a quand même qui disent que vous vouliez vraiment tuer Mitterrand. Donc, il vous reste toujours des étiquettes que vous pouvez pas aller contre. Mais là, j'écoutais la télé. Alors, il est entendu que 20% du corps français électeurs n'a pas voix au chapitre.
C'est ça.
Ceux-là sont des mauvais Français. Et puis, la télé ne vous passe que des espèces d'excités de banlieue qui parlent dans un français approximatif la plupart du temps et qui déversent des tombereaux d'insultes contre une société qui les nourrit et qu'il y a des tas de gens qui passent une vague énorme qui essaye de passer à la nage les mers pour venir être malheureux comme eux.
Voilà.
Maintenant, c'était le truc répugnant, c'était d'entendre divaguer des Jostars, Debouze, je sais pas quoi, l'autre comique là de Martiniquais, là, comment il s'appelle, là, qui a fait des procès de racisme.
Dieudonné.
Dieudonné. Donc c'est ce qu'on appelle maintenant les maîtres à penser. Alors
ouais.
C'est ceux-là qui sont là à exciter, ce qu'ils appellent, on vous traite de racaille. Un mot un mot qui désigne ce qu'il y avait. Enfin, de toute façon, excusez l'inexcusable, mais maintenant c'est eux qu'on voit au chapitre, un point c'est tout, et il n'est pas question, et autour de là, quelques blancs, qui blanc, jaune, je ne sais pas, qui sont là, ils ont juste à opiner du bonnet ou à dire pire. Alors, c'est quand même, si c'est ça la France de maintenant, je comprends l'énorme distance qu'il y a entre les gens comme nous, et que je vois qu'on n'est plus représenté de tous ceux qui se sacrifiaient pour le pays, ou ceux qui avaient quand même une confiance dans notre civilisation et notre passé. Maintenant, non, on est en chute libre, et on est en train de faire un transfert de population, et nous, on sera les derniers des Mohicans.
Et quand vous êtes en Amérique du Sud, quand vous regardez la France de loin, vous parce que ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, ça fait presque 10 ans que vous n'aviez pas mis les pieds en France, vous aviez déjà vous aviez conscience de ce qui était en train de se passer, ou vous l'avez découvert en arrivant?
Il est évident que j'ai découvert en arrivant une chose, qu'on ne peut plus dire les mots. Il y a tout un vocabulaire maintenant pour désigner un sourd, un malentendant, un malvoyant, un mal ceci, un mal cela, un oiseau de couleur. Enfin bon, on dit plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a l'état de mots absolument interdits maintenant. Ensuite, vous n'avez plus le droit d'avoir une personnalité puisqu'on vous donne la vraie vérité. Il faut l'écouter et puis vous la savez. Maintenant, quand j'étais à l'étranger. On écoutait déjà du bruit sur la France, les étrangers qui manifestaient, les trucs, mais comme vous n'auriez pas pu lever le petit doigt dans le pays où vous étiez sans qu'on vous foute dehors à coups de pompe dans les miches, vous disiez ça, c'est des déformations, c'est pas vrai. Et moi je peux reconnaître que, quand je parle de l'Amérique du Sud, les types ils tombent des nues, ils m'ont appelé, mais venez voir, mais c'est ça l'équipe de France de foot, par exemple. Alors, effectivement, ça les frappe complètement, parce qu'un Français, normalement, c'est quelqu'un qui correspond à un certain physique. Oui. Or, maintenant, apparemment, on n'a plus personne qui peut taper dans un ballon qui soit de notre ethnie, on va le dire, mais c'est encore un mot. Voilà, on risque encore de tous les jours, à chaque moment, de tomber sur un procès, parce qu'en plus, si vous êtes homophobe, alors là, c'est terrible. Parce que puis personne ne sait si on est femme, type ou quoi. Il y a tellement d'incertitudes pour ces pauvres gens que je ne voudrais pas partager ça. Mais je me rappelle quand même qu'à l'étranger, on croit quand même que le pays est en plein dérangement. Hein. Les gens se disent quand même... Vous vous rendez compte le coup de la vache folle où on apprenait ça m'abattait des élevages entiers parce qu'une vache avait la grippe, mais là-bas si elle a la grippe, bon ben on va la manger, enfin on va pas acheter sa peau, et puis de toute façon on vous expédie ici maintenant de la chair, elle est élevée là-bas, c'est à peine si on lui fait l'anixomatose, enfin de toute façon c'est quand même invraisemblable de cette civilisation où tout est contrôlé au nom de la liberté, bien sûr, on ne peut plus... Bon, vous résistez qu'un jour quand vous venez là. Et oui. Après, si vous n'êtes pas protégé par le d'être un étranger, parce que la France, ça doit être miraculeux pour un étranger quand même. Hein, il reçoit des tas d'aides, des tas de trucs, des tas...
Oui, mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est parce qu'ils sont exceptionnellement courageux. Moi, je veux dire que si j'étais africain... j'aurais reçu 3 lettres ou j'aurais lu 4 journaux qui paraissent en France, mais je me serais dit à aucun prix j'irai dans ce pays, c'est un enfer, raciste, des anciens esclavagistes, des anciens colonialistes, des exploiteurs du peuple et tout, je vais pas y mettre les pieds, je vais rester chez moi. Donc maintenant on peut se dire quand même que de deux choses l'une, ou ils nous prennent vraiment pour des cons, ou ils se foutent vraiment de notre gueule, parce que quand ils font à la fois le discours en disant c'est un enfer et donc je n'ai qu'une envie, c'est qu'on me donne un visa pour aller vivre. Ou quand vous voyez les Martiniquais qui manifestent contre la colonisation, contre l'histoire de la colonisation, et que alors que la Martinique n'a jamais été colonisée.
Mais de toute façon.
Donc de quoi je me mêle ? Alors on vit dans la confusion la plus totale.
La confusion.
Mais ce qui est frappant, encore une fois, quand on lit votre livre, La Grande Piste, c'est qu'on s'aperçoit que les germes de cette confusion, ils étaient déjà après, peu de temps après la guerre, c'est-à-dire au début des années 50, ils étaient déjà en train de se manifester. Il y avait, le ver était déjà dans le fruit.
Le ver était dans le fruit. Les gens avaient peur. Et je pense que au moment de la, comment dire, l'épuration, où des centaines, des milliers de gens ont été tués, ne serait-ce que parce qu'ils étaient soi-disant de droite ou inscrits dans des partis de droite, donc forcément nazis, font qu'il y a une telle peur chez les bourgeois que plus personne pendant des années-lumière ne voulait reconnaître qu'ils étaient de droite. Donc oui, c'était devenu quelque chose d'absolument... Et les gens ont pris l'habitude de se planquer, d'avoir peur. Et d'ailleurs, ils ont raison d'avoir peur, parce que je ne vois pas tellement le minet d'aujourd'hui prendre les armes pour défendre son logis le jour où il faudra. Le seul moment où j'ai un petit peu d'espoir, c'est quand j'ai certaines réunions, ou même de famille, où je vais très peu, mais où je vois les petits-neveux, qui ont tous l'air encore de Français normaux, qui ont des enfants très beaux et tout. J'espère quand même qu'il y aura peut-être un sursaut. Mais je suis très pessimiste, bien sûr.
Et est-ce que, en Amérique du Sud, où vous vivez, l'ambiance est la même? Comment ça se passe là-bas?
L'Amérique du Sud, c'est un problème horrible. C'est un brûlot. C'est quelque chose qui peut exploser n'importe quand aussi. Ce curé Soutane, justement, m'avait dit, le diable aujourd'hui, c'est la télévision. Ces gens vivaient près du paradis, sans le savoir. Ils n'avaient pas de faim, ils avaient toujours des arbres fruitiers, ils avaient leurs vaches, ils avaient leur lait, ils avaient leurs trucs, bon, puis la télévision. C'est bien. Mais alors, ils découvrent, les femmes ont vu Dynastie, machin, tout le monde veut être directeur, ne pas travailler, avoir des grosses voitures, gagner beaucoup d'argent. Les étrangers qui viennent traîner par là sont soi-disant pleins aux as, donc soit sont des bandits, soit sont des gens qui viennent vraiment vous défier. Et vous avez par exemple au Paraguay, précisément, vous avez 25 000 Paraguayens qui font la queue actuellement pour avoir un billet pour partir pour Madrid, la mère patrie comme ils appellent. Et les avions sont archi pleins entre de Buenos Aires et de Rio, que vous pouvez gagner relativement facilement. De là, vous êtes bloqué, vous n'avez pas de place dans les avions. Il y a tous les prix populaires, enfin, disons à 1 000 $ ou par là, qui sont des sommes fabuleuses pour ces gens, sont archi pleins. Donc vous ne pouvez pas trouver de place dans les avions. C'est à moins d'essayer de vous mettre en affaire, et c'est pas toujours vrai, etc. Donc qui sont des prix prohibitifs quand même.
Ouais.
Et tous ces gens viennent.
Mais pourquoi
viennent,
ils viennent?
Eh ben parce que les salaires sont très bas quand même chez nous. Je dis chez nous là-bas. Les salaires sont très bas. Ensuite, vous avez toujours une petite classe dirigeante qui vit très très bien. Les sénateurs et députés, par exemple, totalement inutiles d'ailleurs. Et véreux du Paraguay se sont alignés les soldes sur l'Europe, hein, bien sûr.
Ah oui.
Et pendant que le salaire minimum, dont 80% des travailleurs ne touchent même pas, est à peine de 100 000 anciens francs, je ne sais pas plus que ça donne en euros.
Et 150 euros.
Bon, donc les gens bien payés gagnent 100 $. Hein, d'ailleurs, des trucs comme ça. Il y a des mendiants partout. Le Paraguay a voulu, avec le Brésil, l'Argentine, les géants de l'Amérique du Sud, de faire ce qu'on appelle le Mercosur, avec
marché commun.
Oui, avec tous les voisins maintenant rentrent, et y compris Chavez. Vous avez vu qu'en Bolivie vient de passer un Indien président qui est totalement contre l'anti-américanisme. Vous avez Chavez qui devient du Venezuela, qui est grâce à son pétrole. En Bolivie, il y a beaucoup de gaz aussi. C'est la plus grande réserve de gaz. Donc vous avez des motifs économiques qui vous font penser que toute l'Amérique du Sud va virer complètement à gauche ou à l'extrême gauche. Et là, vous avez une réserve de jeunes qui sont, je peux vous dire que... qui ne sont pas contentes. qui ne sont pas satisfaites de leur vie actuelle. Et de tous ces gens, vous avez ce que vous, au moment de, disons, de ce qu'on appelait des dictatures, il n'y avait pas de bandits à tous les coins de rue, il n'y avait pas d'assassinats autant. Le pays était quand même dans une espèce de paix. Le Mercosur a fait lever les prix, tout le monde a monté les prix. Et le Paraguay, par exemple, n'a pas d'industrie, donc c'est le pauvre type, il a créé la pauvreté dans son pays.
Mais l'impression qu'on a, c'est que il y a une crise, enfin plus qu'une crise, généralisée, il y a une espèce d'effondrement généralisé des sociétés. Si, on voit bien en Europe, on le voit... Dans les pays de l'Est, c'est pareil, on le voit au Moyen-Orient, en Afrique, on n'en parle même pas. Et maintenant, vous dites, moi, je pensais que l'Amérique du Sud, c'était quand même quelque chose qui tenait encore un peu debout.
Pas du tout. Ils vivaient près du paradis, je vous dis, ils ont détruit ça. Il n'y a que du mécontentement. Vous trimballez toujours armé hein, dans ces pays. Hein.
Ah, oui.
Et de toute façon, le jour où ils vont vous attaquer, normalement, ils auront préparé leur truc suffisamment bien pour que même armé, vous ne puissiez pas résister. Mais tout est vérolé là-bas, vous comprenez. Vous savez jamais si ça va faire un vrai policier. C'est quand même, c'est la démocratie. Elle n'a pas été très bien représentée. Hein,
oui, mais il y a 10 ans, c'était le Paraguay était un pays où on pouvait vivre à peu près tranquille.
Bien sûr, mais à partir du, disons, dans 89, quand est-ce qu'est venu la 81 Qu'est-ce que j'en répète ? Moi, je le finis. Oui, 89, quand il y a eu le coup d'État contre. Oui. Stroessner, en février. Bon, donc, on a eu le premier président démocratique qui était en fait général qui avait trahi Stroessner, qui est devenu président. On l'appelait général Rodriguez, on l'appelait général Cocaïne, vous voyez le genre. Et après, le venu, après lui, le premier président civil. Donc, Vas Mozhi, premier président démocratique. Dans ces pays, c'est bien d'être un peu plus libre, mais si vous n'avez pas l'argent et la bouffe, les gens regrettent toujours. Stroessner est l'homme populaire, est le plus populaire. S'il n'était pas aussi vieux qu'il revienne du Brésil, il est demain président. Hein.
Pour en revenir, puisque vous parlez de président, je voudrais en revenir à l'épisode, un épisode important de votre vie quand même, c'est l'affaire que vous racontez dans Gibier d'État. L'affaire du prétendu complot pour assassiner Mitterrand. Comment c'est né, ça? Comment ça s'est déclenché?
J'avais un ennemi dans la police qui datait de l'affaire d'Algérie. Et qui est devenu le directeur des RG socialistes. Paul Roux. Et qui était franc-maçon, tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce type me haïssait, je ne sais pourquoi. Et donc, comme à l'époque, je fricotais un petit peu avec certains services, il m'arrivait de me croiser dans certains endroits. Et il m'avait déjà plus ou moins laissé entendre qu'il m'aurait à l'œil le jour où il pourrait. Le voilà d'un seul coup branché avec de fer. Donc aussitôt, il commence à sortir des tas de trucs sur moi, ce qui fait qu'on commence à se réintéresser éventuellement à moi. Par là-dessus, il se trouve que Baril, le fameux capitaine Trublion, est célèbre, se fait coincer dans une histoire d'armes, de trafic d'armes avec la Belgique, etc., et qu'il est accusé par le juge Boulouk de l'époque d'être faire partie d'un complot contre le président. Alors, un gros scandale dans la gendarmerie, etc. Et à l'époque, Proutot prend la défense de Baril. Et d'un seul coup, on vient leur offrir un truc différent. On leur dit, ben voilà, les vrais, ce sont des anciens légionnaires, ce sont des trucs. Et puis, à leur tête, il y a un certain Dominique Hérulin. C'est une peste, un type avec des qualités invraisemblables qui est le seul capable de monter tout des tas de trucs qu'il prépare et tout. Et Proutot, qui était en train de s'installer à l'Élysée, pour dédouaner son Baril, a tout à fait marché là-dedans, alors qu'il savait très bien qu'il n'y avait rien qui tenait. Et vient, pour les aider, le cambriolage du camp militaire de Foix, puisque tout chacun sait que ça a été fait par des petits truands du local, locaux, qui avaient fait leur service militaire là, qui savaient combien c'était vulnérable et qui avaient vidé l'armurerie. Alors, ils ont sauté à pieds joints là-dessus. Moi, je venais de faire un déménagement d'usine pour notre ami Jean-Pierre Mouchard, à côté de les, disons, des, en pleine truc communiste à Seine-sur-Mer, pas loin des, comment dire, là, les, où est-ce qu'ils font des bateaux, là, comment on appelle?
Oui, les chantiers.
Là, au milieu de cette pépinière, on s'est couvert de gloire, on a fait une opération super qui a inspiré après les camemberts. Mmh. Et, de faire venait d'être nommé ministre de l'Intérieur ce jour même. Donc il a pris ça pour un défi personnel. Et donc c'est parti de là, en fait, j'étais devenu quelqu'un éliminé. Et c'était vraiment, c'est là que les gendarmes sont très très coupables, dans le sens des gendarmes de l'Élysée, bien sûr, puisqu'ils ont fait semblant d'y croire. Il y a quand même des messages de Proutot absolument sidérants. On les retrouve, ils avaient été publiés dans l'Express, mais j'en ai des montagnes. Jean Montaldo en parle dans Les Voyous de la République. De toute façon, c'est invraisemblable, des trucs.
Ce qui est encore plus invraisemblable, c'est que moi, je trouve que j'ai connu Proutot, j'ai connu son équipe, Lesquivier et compagnie. C'était des gens de chez nous, intellectuellement.
Mais en plus,
totalement. Bon, ils étaient tous francs-macs parce que de toute façon, fallait en passer par là pour monter dans la gendarmerie. Mm-hmm. Mais autrement, c'était des gars qui avaient, c'était tous des fils de militaires ou des fils de soldats.
Oui.
C'était
fils de gendarmes, quand même.
Fils de gendarmes, oui. Mm-hmm. Oui, la plupart sont des fils de gendarmes. Mais,
ils n'avaient pas fait l'Algérie, vous voyez, c'était déjà une sorte de coupure. Oui.
Et ils avaient quand même un certain culte de la patrie, de l'honneur, et de les voir s'engager au service de ce satrape. Déjà c'était surprenant, mais on pouvait dire c'est pour faire une carrière, etc. Mais ensuite, quand ils ont tout prostitué à cette crapule, et monté, alors pour, parce que moi je suis absolument certain que cette histoire de prétendu attentat, c'était un moyen pour eux d'accélérer leur promotion, et d'obtenir des moyens, parce que l'autre faisait littéralement dans son froc à l'idée qu'on aurait pu lui jeter un caillou, et donc il était prêt à tout. Je me souviens qu'on avait fait un numéro de Minute qui était intitulé « Un poltron à l'Élysée ». C'était exactement ça, c'était exactement un poltron, il avait peur de tout, tout le temps, et naturellement les autres disaient « Monsieur le Président, on vous protège ». Et alors ils passaient pour des héros purs et sans tache, les chevaliers blancs qui...
Vous savez qu'il y a un truc absolument incroyable. Ces gens-là, moi je les connaissais, parce que j'étais pilote d'essai pour la marque Danis de Delta. El Delta, qui était un truc, à l'époque, on était à Maison Alfort, et à côté, il y avait des gens qui tiraient du matin au soir, qui emmerdaient tous les voisins, qui étaient donc Popol et le petit, enfin je sais pas comment ils les appelaient, le grand et Popol, et on les a connus. Et on leur a appris à faire du Delta à quelques donc ils me connaissaient en plus, ces gens-là. C'est ça qui est de plus en plus... d'ailleurs, ils disent, oui, Dominique Rulin, on le connaissait très bien, bon, et tout. C'est absolument incroyable. Ces gens-là m'ont sacrifié sur l'autel du satrape, donc je leur en veux considérablement. Mais Proutot, maintenant, il me dit qu'il fallait venir me voir.
Oui, il vous aurait flingué.
Mais de toute façon, bien sûr.
Je pense qu'il vous aurait tué. À l'époque, ça courait.
Absolument.
Un journaliste, il a des contacts avec ces milieux-là, forcément, avec les RG, avec... Bon, et combien de fois j'ai entendu dire, ça, si on l'a dans la ligne de mire, on le flingue. Ils étaient obligés de le faire, d'ailleurs.
De toute façon, ils m'ont mis dans tout truc. Ils m'ont même mis que j'avais rejoint les Brigades Rouges, que j'étais membre membre des Brigades Rouges, armés jusqu'aux dents tout le temps, etc. Et m'avait prévenu un de nos amis de la droite qu'il était prévu de me descendre.
C'est ça.
Et de toute façon, il fallait que je quitte l'Europe.
Tiré à vue.
Et donc, ils m'ont poursuivi. Après, en Afrique, il s'est passé cet événement assez marrant qui a dû faire du bruit à l'Élysée quand Mitterrand est venu en Côte d'Ivoire, où je me trouvais réfugié avec tous les honneurs à la présidence, et que vient notre gars, tonton, un costard blanc, d'as bicolore, debout dans une décapotable, et que je me suis amusé d'ailleurs à le prendre dans la ligne de mire, ne serait-ce que pour... Et pendant ce temps-là, tous les gendarmes me voyaient en espérant pas en Espagne, mais vous voyez, en Belgique, en Hollande, dans je sais pas quel bar de bon d'anciens mercenaires, etc. Et alors, donc après, je me retrouve en Suisse, et là, pan, à la télé, je vois Mitterrand. Alors là, croyez-moi qu'il avait l'air d'avoir les trouilles, hein, parce qu'il y a au moins 60 mecs autour de lui, et c'était tonton, le parrain qui traîne.
Mais quand on est dans cette situation, qu'est-ce qu'on éprouve ? On éprouve de l'inquiétude, de la peur, une espèce de jubilation quand même ?
Écoutez, le fait d'échapper au départ vous emporte une satisfaction éventuellement, mais c'est tout de suite une inquiétude, c'est aussi tout terrible, pensez que vous n'avez plus rien d'un seul coup, vous avez contre vous le monde, vous pensez la France entière, mais après c'est le monde entier au jour d'aujourd'hui. L'exemple du pauvre général Gotovina, là, le truc, vous n'échappez plus. Alors, au début, vous êtes satisfait, vous êtes à peu près content, après, il y a la désespérance, quand même, et tout en devenant, il faut lutter pour ne pas devenir complètement
parano,
hein, voir des choses, mais il faut voir les choses.
Il faut vivre aussi.
Alors, surtout vivre, et vivre, tout est absolument hors de prix dans ces moments-là, et en plus, on ne veut plus vous utiliser. Enfin, moi, j'avais eu la chance d'avoir beaucoup d'appui dans les services à ce moment-là, au départ, avant qu'ils leur fassent aussi l'épuration. L'épuration, comment on appelle ça, ethnique.
Ethnique, oui.
Et donc, pendant un certain temps, certains agents acceptaient de me rencontrer, et même de me confier des missions. Mais après, par exemple, on devait me remettre 3 passeports, j'ai même donné photos, j'ai rencontré, finalement, le grand chef avait pris peur. Si on me prenait avec ses passeports, qu'on verrait d'où il venait. Donc, après, on m'a fait comprendre qu'il valait mieux, quand même, que je me tienne éloigné, tranquille. Et peu à peu, les gendarmes avaient pris l'habitude de voir mon existence possible, bien qu'il me revenait toujours des tentatives d'arrestation, d'état d'ennui par-ci par-là. Et du moment que je crevais de faim, ça leur paraissait bien.
Voilà. On est sur Radio Courtoisie. Je reçois Dominique Hérulin pour son livre La Grande Piste. Paru aux éditions Reconquête, aux éditions de la Reconquête, et également pour son livre plus ancien qui était intitulé Gibier d'État et qui est paru aux éditions Albin Michel. Et il en reste ou il a été publié?
Il en reste, bien que Albin Michel a compris la leçon et il refuse de publier quoi que ce soit de moi maintenant.
Ils se sont fait tirer les oreilles
et ils ont saboté complètement la promotion du livre. Faut dire que ils avaient choisi un mauvais été, voulaient en faire un livre d'été 2002 et voilà-t-il pas que Le Pen devient deuxième aux élections présidentielles. Alors là, livide, il était trop tard pour le retirer, mais enfin, il a été saboté complet. On n'en a jamais parlé, à part une chez vous et chez nous. Et autrement, c'était devenu le livre politique maudit.
Alors que c'est un livre passionnant, hein, parce qu'on découvre, ça ouvre. C'est pratiquement le premier livre qui a ouvert la porte sur les abysses de ce pouvoir qui est un pouvoir à la fois mafieux, maléfique. Et j'en ai autant au service des successeurs, hein, c'est pas...
Si je peux me permettre d'être grossier, quand ils m'ont vu revenir, ils ont dit, il est encore vivant ce con-là.
Mais c'est vrai que c'est un peu la surprise, c'est-à-dire, je disais au début de cet entretien qu'il y a sur votre vie comme une ombre, une espèce de non pas de malédiction, c'est pas ça, mais
c'est pas les rois maudits quand même.
C'est pas les rois maudits, mais c'est cette espèce de mauvais vouloir ténébreux qui. Et puis en même temps, il y a une invraisemblable baraka.
Si, la baraka. Mon père me le citait souvent. Ouais. Et il avait commencé dans les tirailleurs marocains, lui, au lieu de faire les états-majors.
Alors, là, vous nous donnez un livre qui est un livre tout à fait passionnant, vraiment passionnant, parce qu'il y a beaucoup de références, beaucoup d'anecdotes qu'on n'a même pas évoquées, parce qu'il faut le lire, bien sûr. Mais... En même temps, vous me dites que vous n'envisagez pas de revenir en France, de vous réinstaller en France.
Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu des interventions auprès du président pour essayer de mettre un terme à tous ces ennuis et tous ces trucs, mais étant donné que la France n'a jugé utile que de me donner 300 euros par mois de retraite, je ne peux même pas vivre en France. Le président a envoyé ça sur le mise à justice qui était Père Ben, lequel a envoyé ça sur le directeur d'affaires criminelles. À la fin, ils ont dit mais on peut pas lui donner quoi que ce soit ni lui faire un truc parce qu'il est pas condamné. Ils m'ont ruiné la vie. Mais le truc est même pas là, de l'amplitude de ce qu'ils ont fait. C'est pas. Mais un journaliste un jour m'avait dit, mais vous devriez les remercier, sinon ça vous seriez mort d'ennui. Et donc c'est une façon de voir. Oui. Mais les choses qui m'ont fait voir qu'on avait fait fausse route, c'est que ils ont eu tellement peur que j'attaque l'État. Qui m'ont empêché d'être partie civile contre la cellule de l'Élysée. Ça a été.
Alors comment ils ont pu faire ça?
Eh ben, le juge Valla a changé tourné Kazakh, qui avait l'air d'un type vigoureux. Il a été bien promu d'ailleurs. Donc il est passé. Donc c'est en appel. On a eu juste le temps de déposer. Et l'appel pour me faire comprendre qu'il fallait quand même me tenir à carreau. Ils m'ont reconvoqué aux assises. Alors qu'en 96, en janvier, le jour de la mort de Mitterrand, on m'avait largué et le procureur m'avait serré la main, m'avait dit c'est un non-lieu, c'était une affaire gendarmesque qui avait permis un hold-up d'un bijoutier qui leur sert toujours d'ailleurs, qui avait permis de demander des avis d'extradition, qui avait été refusé par tous, ce qui montre quand même que l'épaisseur du dossier. Et donc en France, on me relâche, mais 8 ans après, je suis reconvoqué. Au même moment que devait venir l'appel de la cellule. Et là, je passe aux assises, alors que mon avocat, Maître Trémollet de Villers, qui voulait toujours retarder les choses, était curieusement pressé, et me disait que les affaires n'étaient pas liées, je tombe sur une espèce de folle qui me fait condamner, en fait, avec un procureur absolument du Kafka. D'ailleurs, on dit Dominique Aulin, il a 25 ans, et il mesure 1m20 et il est blanc aux yeux bleus. Hein, voilà, donc tac, c'est un fait. Vous, et voilà, il est devant vous. C'est à peu près le genre de truc. Alors tous les témoins, toutes les affaires pour moi, vraiment le truc absolument. Eh ben, ils réussissent quand même à tourmenter, parce que alors là, la justice, j'écris d'ailleurs un petit livret là-dessus, il m'a fallu des mois pour m'en remettre, ils ont tourmenté leur jury, je sais pas, et je crois qu'ils ont réussi, le procureur avait demandé pour protéger la République, évidemment, mais après 25 ans de service que j'ai fait, malgré tout dans ma cavale, 50 prisons fermes. Et là, il paraît que la bonne présidente, là, qui m'avait fait un procès d'hystérique, elle demandait 15 ans au juré. En fait, j'ai su ça par un des jurés. C'est incroyable que j'ai rencontré, en dînant chez des gens, la femme d'un des jurés. J'ai su un peu des trucs comme ça. Donc finalement, j'ai pris 5 ans avec sursis.
C'est incroyable. Alors,
j'ai fait appel, j'ai pas de nouvelles, mais en fait, c'est invraisemblable. Et j'ai compris le message, on m'a dit, t'as compris le message quand même. L'État français, tu ne peux pas attaquer la gendarmerie en tant que reconstitué, tu ne peux pas attaquer l'État. Un avocat est venu me voir, il m'a dit, écoutez, je attendais le procès. Là, ne faites pas de bruit pendant le procès, ça a été quand même confirmé en cassation que je pouvais pas être partie civile. Et je suis pointé là-bas une fois, puisque soi-disant le président voulait m'entendre, puis le président ayant demandé, tout le monde s'est enlevé, a dit bon, on vous entendra pas. J'ai dit c'est normal, avec tout le bien qu'ils m'ont fait. Et comme j'étais là, un journaliste me dit vous voulez pas attraper Proutot? Ben, je dis si les caméras sont là, alors toutes les caméras sont mises, et j'ai chopé Proutot. Alors il fallait voir un peu comment il éclatait de qui faisait. Bon, et l'émission qui aurait dû passer n'est pas passée. Et moi je repartais et le journaliste, l'avocat qui m'avait dit de ne rien faire, pas le moindre bruit, m'a dit attendez, quand ils sont condamnés, moi je les attaque au civil. Et là, maintenant qu'ils sont pas condamnés, il me dit il est impossible de les attaquer, parce qu'on sera renvoyé au tribunal administratif, enfin tout est. Etc. Donc, résultat, j'ai quand même l'impression de m'être fait manœuvrer.
Non, mais on voit très bien, quand vous pensez que l'un des responsables de ces écoutes, qui est Louis Schweitzer, a été nommé dans la foulée président de la Haute Autorité contre les discriminations.
Oui.
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations raciales. On est abasourdi, littéralement.
Mais vous savez, en fait, j'ai bien compris. Je ne fais pas partie. Je suis pas dans le bon crible. Je suis pas dans le bon secteur.
Ah, c'est certain.
On ne fait pas partie du français intéressant.
Alors. Donc, le premier livre, La Grande Piste, le premier tome de La Grande Piste.
Oui. Je m'inquiète pour vous.
Oui,
là.
Ben, ça va aller. Si, je pense que je finirai par mourir, mais pas de ça.
Bon, ok.
Le deuxième tome traitera quelles les années.
Je pense l'éditer dans le. Pour l'été, ou en fait, au plus tard la fin de l'année pour l'année prochaine, voilà, de toute façon.
Mais au fond.
Enfin, pas l'année prochaine, puisqu'on parle déjà un peu en avance. Vers la deuxième partie de 2006, voilà.
J'ai oublié de dire aux auditeurs que c'était une émission enregistrée.
Oui. Mais on est quand même.
Encore en 2005 pour quelques jours.
On est quand même face à face.
Ils l'entendront en 2006, et on est réellement face à face. Au fond. D'où vient cette décision d'écrire un livre? Parce que c'est pas dans votre caractère. Vous êtes plutôt un homme d'action qu'un homme de féminin, qu'un homme d'écriture.
Et une très très bonne question, d'autant plus que une sorte de complexe d'infériorité me tient toujours, parce que effectivement, à un moment, mon éditeur aurait dû être celui qui faisait les livres de Élie de Saint-Marc. Et je disais, mais j'ai rien à voir avec des gens comme ça. Moi, je suis pas, je suis que le pauvre Demi Kerulin. Et en fait, peu à peu, je me suis aperçu, vous m'avez parlé, que j'avais beaucoup de gens qui aimaient bien l'histoire de ma vie quand même, et qui me disaient, mais il faut quand même qu'on connaisse un peu, parce que les gens ne savent plus, avec tout ce qu'on leur dit, il n'y a plus assez de témoignages. C'était pas la vraie raison. Simplement, je crois que d'un seul coup, je suis en train de me dire que mon avenir est derrière moi. Mmh. Et donc, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même laisser une trace, parce que j'ai vu combien c'était de peu d'importance, qu'on vive ou pas. Et je me rappelle, j'avais été extrêmement choqué quand mon frère Philippe, le soir, lui est mort, qu'il y ait des séances de cinéma, qu'il n'y a rien qui bouge, on s'en fout, que soyez mort ou vivant, oui, en fait. Bon, donc, je me suis dit, ben, peut-être que si je rassemblais un petit peu l'itinéraire, qui n'est pas commun, et surtout qu'il n'y en a plus comme ça maintenant.
Donc, j'étais en train de penser, quand je vous ai posé cette question, la raison pour laquelle vous écrivez vos mémoires. Vous êtes un personnage de Dumas, en réalité. Vous êtes un personnage d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire, il y a une réalité historique du personnage, mais on se dit que il faudrait être un génie du roman pour donner à la vérité historique de votre personnage toute sa dimension, parce que vous avez évolué dans des conditions, dans des milieux, dans des époques, dans des circonstances qui sont à chaque fois la matière à c'est les Trois Mousquetaires, 20 ans après, le Vicomte de Bragelonne, on n'en finit pas. Enfin, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
Ben de toute façon, jusque-là, je suis encore dans une période où je peux parler librement, mais quand plus on va avancer, il y a quand même certains aspects ou missions futures que je pourrais difficilement aborder sans être un parjure et tout. Donc, j'aurais quand même.
Ça, c'est encore de l'importance pour vous. Malgré tout ce qui s'est passé. Malgré les trahisons, malgré les abandons, vous considérez que la parole donnée vous engage?
Oui, bizarrement, je suis assez bête pour ça, parce que je déteste les gens qui trahissent, crachent dans la soupe, enfin, on peut pas parler de soupe pour moi, mais qui, après avoir servi quelqu'un, sont là à sortir tout ce qu'ils peuvent trouver dans la poubelle. Bon, je pense que effectivement, je le dis aussi pour pas inquiéter certaines personnes. Je voudrais pas quand même qu'ils me raccourcissent, alors qu'ils ont essayé vainement déjà pendant longtemps, en se disant, là, il faudrait pas quand même qu'ils se mettent à nous raconter certains trucs. Non, de toute façon, je les rassure, mais je pense suggérer certains trucs quand même.
Dans ce cas-là, la meilleure des protections, c'est de l'écrire en disant de publier qu'après ma mort.
Éventuellement. Ça peut être fait. Effectivement, parce que tout le monde, et j'ai plein de gens qui viennent me dire, hein, et raconte-nous oui, ça, a, tout le monde les emmerde, a, tu les emmerdes, ça, ouais, tu vas voir, ça va faire un tabac, ça intéresse et tout. Non.
C'est vrai que quand on lit le premier tome, on se dit que quand ça va devenir vraiment chaud, on va avoir des, il va y avoir des révélations, c'est évident, même si vous respectez certains engagements que vous avez pris vis-à-vis de gens qui ont été corrects avec vous. De ne pas rentrer dans le détail de certaines
histoires. Vous voyez, par exemple, je vais vous citer un exemple tout neuf. Il y a eu un bouquin sur la DST qui est paru il n'y a pas très longtemps, de Ploquin, Frédéric Ploquin, je ne sais pas qui. Et dedans, à un moment, on parle de moi en disant « Nucurulin, mi-voyou, mi-trafiquant d'armes, mi-agent secret ». Enfin,
c'est trois moitiés.
Oui, trois moitiés, mais c'est... Et bon, alors, j'avais fait... Il se trouve que j'avais un peu d'argent, j'en avais fait un procès. Voilà. Alors, d'un seul coup, sont venus me voir des tas d'amis de ce corps, anciens même, pour me dire, mais tu vas poser des problèmes à tel, qui est un ami qui a fait beaucoup de choses pour toi à l'époque où c'était, nanana, nanana. Bon, du coup, malgré les frais engagés, j'ai renoncé. Ils m'ont envoyé une lettre, une triste lettre d'excuses en me promettant qu'ils retireraient et tout. Je leur ai pas dit qu'il fallait m'envoyer de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les choses sont là. Je vois à chaque fois que je veux dire quelque chose, des gens qui ont des raisons de me demander de ne pas parler se redévoiler.
Ce qui est extraordinaire, c'est la permanence des faux arguments. C'est-à-dire que comme vous êtes un personnage hors du commun, on décide que vous êtes un voyou.
Absolument, oui.
Ça n'a pas de sens. En réalité, voyou, ça veut dire quelqu'un qui se comporte mal. Dans leur tête, c'est quelqu'un qui ne parle pas comme eux.
Oui.
À partir du moment où vous êtes qualifié de voyou, vous devenez trafiquant de tout ce qui est possible de trafiquer. Parce que si c'est un voyou, bon, il faut dire en quoi ? Bah, trafiquant d'armes. Pourquoi ? C'est comme ça, parce que c'est un trafiquant d'armes. Et on voit très bien comment leur système est construit, un système de diffamation, de calomnie, et de souillure permanente d'un personnage. Et c'est tellement fort que même des gens qui vous connaissent finissent par dire ouais, enfin quand même
il n'y a pas de fumée sans feu,
voilà.
Oui, il y en a d'autres qui m'ont dit bon bah d'accord, ça tient pas debout ça, mais t'es puni, t'en as fait d'autres, ouais. Et en fait c'est tout à fait la vérité ce que vous touchez là.
Il n'y a pas une immense amertume quand même? Merci. Quand vous retournez, vous regardez les 68 ans parcourus.
Si, bien sûr, bien sûr, il y a une immense en sa vertune. Et en fait, moi qui n'avais jamais eu peur d'être seul, vous voyez ce que je veux dire, je me dis que je suis j'ai du personnel en Amérique du Sud qui m'aime beaucoup, ça fait plus de 10 ans que je les ai. En fait, entre parenthèses, j'ai été décoré là-bas, puisque je suis devenu colonel de l'effort spécial.
Ah
bah
vous avez fini par y arriver.
J'ai été décoré pour 20 ans de service à la Saint-Michel dernière.
Ah, c'est formidable.
Alors, ça m'a mis un coup. Bon, mais moi qui ai donc du personnel depuis je ne sais combien d'années, de local, et eux, ils commencent à s'angoisser. Non, mais si vous mourrez, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et en fait, c'est une vraie question. Il faut que je leur donne quand même un téléphone, quelque chose. Il faut que je prenne des décisions. Je suis pas immortel. Bien que avant, je bravais la vie, parce que pour la mort, on va dire, parce que pour moi, la mort, c'est pour les autres. Mais maintenant, je me dis que mon tour va venir. Je vois tous les jours des croix dans mon carnet. Et bon, je suis venu là pour enterrer encore un ami qui est de la campagne Tixier, là, qui est mort il y a pas longtemps du tout, et etc., etc. Donc j'ai des croix plus que des amis, d'ailleurs. Et la France qui reste debout, vous êtes un survivant, et il en reste que par-ci, par-là, mais en fait, de quoi est fait le demain, c'est pas moi. Et mon avis, à moi, n'importe plus, parce que de toute façon, c'est les jeunes qui vont faire face aux vrais problèmes. Donc, si vous voulez, il y a effectivement un petit côté, un petit sentiment de raté, puisque là encore, je suis retombé dans la rue sous un ancien du SDEC de l'époque, un ami d'Algérie. Là, il était décoré de la Légion d'honneur, quand même.
Ah,
hein? Donc, moi, personnellement, sur le point de vue décoration, j'allais dire, la France ne s'est pas vraiment... ne s'est pas bousculée. Hein?
Dominique Kévelin, je vous remercie d'être venu nous voir de si loin, parce que vous allez repartir là, donc au Paraguay, on peut le dire encore.
Oui, on peut le dire, d'ailleurs, si vous voulez sauter, c'est moi qu'il faut venir voir.
La prochaine fois que je vais au Paraguay, je ne manquerai pas de venir vous saluer. Merci en tout cas d'être venu nous parler de votre vie, et puis de votre deuxième livre qui s'appelle La Grande Piste, qui est paru aux éditions de La Reconquête. Le premier, je le rappelle, c'est Gibier d'État. Qui aurait pu être intitulé « Comment je n'ai pas tué Mitterrand » ou oui. « L'homme qui n'a pas tué Mitterrand » contrairement à l'homme qui a tué Liberty Valence.
Oui, et d'autres avaient marqué, c'était en Suisse, une grande revue, « L'homme que Mitterrand voulait tuer ».
Ouais, c'est tout à fait, c'est beaucoup plus vraisemblable, oui, beaucoup plus vrai. Merci en tout cas, et puis, bon, je sais qu'on dit pas bonne chance, mais...
ok, j'accepte.
Bon voyage.
Ok.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, seconde partie préenregistrée le 20 décembre 2005, émission diffusée mercredi 15 février 2006 de 18h à 21h, et jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck et par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtois...